Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Génération Soccers pour un débafteur exceptionnel ce soir. Le choc qui fut une grosse déception ce soir, le choc de la Ligue 1 qui se devait d'être un très grand match ce soir dans un vélodrome comblé. Score final 0-0, un match très mitigé, on va revenir dessus avec nos chroniqueurs tout à l'heure. On reviendra aussi sur la Serie A, on reviendra sur les matchs qui se sont déroulés aussi en Angleterre. Un gros programme pour cette grosseur de débafteur avec vous ce soir sur Génération Soccers. Et pour m'accompagner ce soir, messieurs Roméo, bonsoir Roméo.
Bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde.
Il y a également Yann, comment vas-tu ?
Ça va, salut à tous.
Marvolo est là, comme toujours.
Bonsoir, et je vais commencer par présenter mes excuses à ceux qui écoutent, parce que, tout simplement, aujourd'hui on va pas revenir sur le championnat espagnol, je suis malade depuis quelques jours et j'ai absolument pas pu suivre la journée aujourd'hui.
Ouais. Très bien, Marvolo. On te pardonne pour cette fois-ci. On aura également en cours d'émission normalement d'autres chroniqueurs qui devraient arriver. On devrait avoir Khaled, on devrait avoir Aurélien normalement. Donc du beau monde ce soir autour de la table. On va commencer sans plus tarder par les réactions à chaud sur ce match OM FC Girondins de Bordeaux, un score nul et vierge, on l'a dit. On reviendra sur les matchs à 17h tout à l'heure. Je vais demander aux supporters marseillais ta première impression. T'étais vraiment déçu par ce choc là, Roméo?
On annonçait le grand choc, mais finalement ça a été la montagne qui a accouché d'une souris en quelque sorte. Il y a eu quelques actions, notamment donc la barre que trouve Chirou, le poteau que trouve Randao, mais bon, il y avait beaucoup de chocs, c'était un match très physique avec beaucoup de contacts, d'impact physique. C'est pas étonnant, c'est un match très tendu, et ça s'est résumé à un duel de milieu de terrain. Et je pense comme tout le monde, j'ai pas vraiment apprécié ce match. C'était pas vraiment le match qu'on attendait, mais aussi une grosse déception, c'est Nyang qui a été invisible ce soir. Il y en a d'autres, mais moi, chaud là, c'est la première chose qui me vient, c'est ça, quoi.
Yann, tu partages l'avis de Roméo?
Pas exactement, parce que moi j'ai trouvé que c'était un excellent match, malgré ce score vierge. Je trouvais que c'était un gros match de Ligue 1, deux superbes équipes. On a vu peut-être dans le jeu un Bordeaux avec un temps d'avance sur Marseille, parce que voilà, c'est une équipe qui est construite depuis plus de temps que Marseille. Mais ça reste un gros match. Il y avait un vélodrome avec une grosse ambiance, et ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette ambiance-là au vélodrome. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Nyang a été décevant, et offensivement, dans l'animation, Marseille a été décevant, c'est vrai. Mais bon, si Brandao aurait marqué à la place du poteau, ou si Chirou aurait marqué à la place de la barre, je pense qu'on aurait dit qu'il y avait eu un très grand match. Moi, je pense que ça a été un très bon match.
Ok. Justement, là, on va rester un petit peu, là, quelques minutes sur la performance collective avant de passer plus aux individualités. On passera chaque ligne en revue après. Performance collective, moi, j'ai trouvé, Bordeaux peut-être moins désordonné que Marseille. Je sais pas ce que t'en penses, Marvolo. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus coordonné du côté de Bordeaux. Marseille a eu justement des occasions, mais là encore, souvent, par exemple, t'as vu un Valbuena qui n'était pas vraiment à son poste sur le côté droit. T'avais, Nyang, les quelques fois où je l'ai vu toucher un ballon, il était même pas bien cantonné sur son côté gauche. Je trouvais que c'était un petit peu désordonné du côté de Marseille, et je sais pas si ça a peut-être influé sur le fait qu'il ne puisse pas arriver à marquer.
Désordonné, non, pas spécialement d'accord, mais un gros manque de collectif, ça c'est plus évident. Mais moi je suis surtout resté sur le positif du match, pour une fois vous me direz, c'est que après avoir vu Bordeaux-Nice et donc la superbe ambiance à Chaban-Delmas et là une superbe ambiance au Vélodrome, de voir que les défenses sont ultra solides et ils ont quasiment fait aucune erreur, les deux défenses. Moi, je trouve que c'est très très encourageant pour la Champions League, et encore plus vu que cet après-midi j'ai vu Roma-Juventus, quand on voit un peu ce qu'est devenu la défense de la Roma et ce que sont devenues les défenses bordelaises, et avec une énorme ovation ou ce que vous voulez pour Siani qui, comme je l'ai dit, il est dans le prolongement de la semaine dernière, il est franchement énorme. Moi je suis très très encouragé. Après, sur le jeu en lui-même, c'est pas une surprise de voir que Bordeaux est plus collectif que Marseille, mais Marseille là aussi reste plus tranchant parce que les plus grosses occasions, ça reste des occasions marseillaises. Et je pense que est-ce qu'il n'y avait pas une équipe qui méritait vraiment plus de gagner, mais vraiment tout petit avantage à Marseille.
Ouais, et justement, c'est vrai que défensivement, les deux équipes ont été super costauds. Là, je te rejoins. Par contre, si on parle de Ligue des Champions, moi, je pense que le jeu offensif marseillais, il va pas être super en Ligue des Champions. C'est peut-être ça qui va faire défaut en Ligue des Champions. Parce que défensivement, ok, ils sont là. Offensivement, on n'a pas vu grand-chose côté marseillais dans le jeu, dans l'animation, dans le jeu combiné. Ça va pas faire long feu en Ligue des Champions, ça. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, je trouve juste un peu pourri. Pour une fois, je prends de la défense des clubs français. Je trouve juste, on est quand même un petit peu dur là de dire que c'est pas aussi indigent qu'on croit. C'est indigent surtout, enfin indigent et encore. C'est surtout parce que c'était très très costaud. Mais la défense de Bordeaux est très très forte. La défense de Marseille, il y a un tout petit peu de flottement parce que c'est normal. Hein, on a pris deux joueurs qui ont jamais joué ensemble. Je pense même que Heinze ne connaissait pas Diawara il y a deux mois. Et puis là, ils sont quand même assez bons. Les latéraux ont fait des progrès. Hein. Je trouve que Théo, il était un petit peu mieux que d'habitude, même si à un moment, il a fait une grosse erreur de marquage. Il a complètement vidé son côté gauche qui a failli goûter un but. Moi, j'ai vu juste quelques images. Alors, j'ai vu par exemple quelques images du Sevilla ou de l'Atlético Madrid. Les clubs français sont largement... en avance, hein. Malaga a battu l'Atlético Madrid 3-0, Valencia a massacré Séville aussi 2-0 avec une belle domination. Donc, je suis pas sûr que ce soit si tu veux que ce soit très handicapant ce qui se passe. Bon, après, il faut laisser du temps, faut pas oublier que à Marseille, Lucho González est toujours pas revenu. On n'arrive toujours pas à savoir qui est le titulaire à droite. Est-ce que c'est Valbuena? Est-ce que c'est Ben Arfa? Donc il y a encore beaucoup de possibilités de s'améliorer. Moi, je pense qu'il faut voir le côté positif, quoi.
Ouais, c'est vrai que Marseille est encore en construction entre guillemets, mais bon, je veux dire, la Ligue des Champions c'est dans deux semaines. On voit que avec la blessure de Koné, l'entrée en jeu de Valbuena, bon, bof, ça a pas fait grand chose. Valbuena, il a pas fait grand chose. On a vu qu'avec un Yang qui était pas transcendant, et ben tout de suite offensivement ça se ressent. Moi, offensivement, franchement, Marseille m'a déçu et j'irai pas jusqu'à dire m'inquiète, mais bon, pour la Ligue des Champions, offensivement, ça suffira pas et voilà, je suis un peu inquiet pour Marseille.
Là où je suis pas spécialement d'accord, je serais plus inquiet moi pour Bordeaux, vu que la Juve est déjà réglée devant et derrière. Ils sont allés massacrer la Roma 3-1 à Rome.
On en parlera tout à l'heure.
Rapide, ouais, voilà, avec un énorme match de Diego, mais le Milan, ils sont nuls défensivement et offensivement. Alors c'est pour ça que je te disais, faut pas voir tout le temps le verre à moitié vide. Je mets juste les deux matchs en opposition. Milan nul, Marseille bon derrière et perfectible devant. Ouais, on peut se dire qu'il y a moyen d'aller chercher des points donc à Milan. Bon voilà, je pour une fois, j'ai décidé de pas être trop à charge contre les clubs français, quoi.
Ok, très bien, Marvolo. Une petite question, d'un œil peut-être un peu plus impartial, je vais te poser à toi, Yann. Est-ce que honnêtement, il y avait faute de Siani sur Taillot, il me semble, c'est ça, enfin le but refusé à la fin.
Alors, en fait, donc c'est sur un corner à la fin. Alors c'est vrai que déjà avant que le corner se tire. Taiwo et Siani se cherchent, se bousculent un peu. Et lorsque le corner est tiré, l'arbitre là regarde les duels et là il voit Siani qui pousse Taiwo, alors qu'il n'avait pas dû voir Taiwo qui poussait Siani quelques secondes avant. Donc il a vu Siani qui poussait des deux bras Taiwo, donc il a vu ça, il a sifflé. Et... Donc oui, il y a faute, mais il y avait aussi poussage de Taiwo juste avant. Mais bon, c'est sifflable, ouais, tout tout à fait.
D'accord, oui. Donc, pas une erreur de l'arbitre. Une prestation d'ailleurs plutôt correcte de l'arbitre. Si on revenait sur lui ce soir, j'ai trouvé qu'il avait bien géré son match pour une fois, pour un gros choc. Parce que comme l'a dit Marvolo, il y avait une énorme ambiance et on a il a réussi vraiment à tenir les 22 acteurs. Oui, Marv.
Oui, et puis au-delà, c'était pas un match extrêmement violent. C'était un match assez tranquille pour lui. Il y a eu 2-3 taquets un peu.
Ouais, des petites fautes.
Voilà, des petites fautes. Il n'y a pas eu de. Le penalty, à la limite, enfin, le siffler la faute sur Théo. Oui, ça peut porter un petit peu, mais faut pas oublier qu'il avait sifflé 10 secondes. Enfin, disons, j'exagère, mais 3-4 secondes avant que le Bordelais ne marque. Donc, Mandanda était déjà à l'arrêt. Les défenseurs marseillais se replaçaient déjà. Donc, oui, non. Je suis pas sûr que l'arbitre ait joué un rôle déterminant. Pour une fois, et c'est le principal, quoi.
Je voulais revenir sur le penalty pour répondre à ta question, Arnaud. Je pense que oui, il y a faute, mais le problème, c'est il faut se demander si est-ce que tous les arbitres auraient sifflé ce truc, et est-ce que à l'avenir les arbitres vont se mettre d'accord pour être aussi sévères dans la surface et siffler le même genre de faute, ça je sais pas. Mais faudra voir, parce que je pense qu'il y a faute, oui, il y a faute, il le pousse, mais est-ce que il y aura une uniformité dans ces cas-là si ce cas se reproduit dans l'avenir au niveau de l'arbitrage, je sais pas.
Ouais, mais faut pas être aussi naïf, Roméo, parce que il y a poussette et poussette, quoi. Si je te mets un petit coup d'épaule contre épaule, ça va, il va quasiment jamais le siffler, mais si Théo arrive et qu'il défonce l'épaule de Tremoulinas, il va la siffler tout le temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait une petite poussette, et ensuite, le Bordelais était un peu trop. Il a mis un trop gros coup, voilà, c'est tout. C'est pas question d'uniformiser les décisions arbitrales, mais on peut pas siffler tous les contacts, parce que, voilà, quoi, c'est pas un sport de contact, certes, mais c'est un sport où il y a des contacts. Après, si tu te mets à rentrer dans le fabuleux monde de Valbuena, tu t'en sors pas, quoi.
C'est vrai.
Donc, je pense que voilà, on est bien revenu sur les prestations collectives. Là, on a mis dit un petit mot sur l'arbitrage. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On devrait peut-être normalement avoir un Bordelais qui va nous rejoindre tout à l'heure. Donc on va laisser de côté les prestations individuelles, bordelaises pour un peu plus tard. On va passer d'abord donc à Marseille et aux prestations justement donc individuelles. On va commencer par la défense. Mandanda, que j'avais pas mal critiqué depuis le début de saison. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Rassurant. Il n'y a pas eu non plus énormément de boulot à faire. Toi, Roméo, t'en sors quoi de sa prestation?
Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a bloqué les ballons quand il devait le faire. Il est sorti. Il y a eu plusieurs actions où il a été contraint de sortir, de prendre le ballon plus loin de ses 6 mètres. Et il a bien fait ça. Moi, je vois pas de choses à lui reprocher ce soir. Il a fait son boulot.
Il a pas fait d'erreur comme la semaine dernière, voilà. Face à Rennes, quoi.
Non. Voilà, il a pas fait la même erreur que la semaine dernière. Non. Je l'ai trouvé correct dans ses prises de balles, dans ses sorties. Voilà. Rien à dire sur Mandanda ce soir. Personnellement.
Marvolo.
Il a eu une situation chaude en début de match. Il a fait une double sortie. Et au final, il fait un bon match, quoi. Son gardien, généralement, quand il n'y a rien à dire sur lui, c'est bon signe, quoi. Il a fait le boulot.
Je crois qu'il a été approximatif sur une sortie aérienne en début de match sur un duel avec Chamakh, il me semble, ou Chamakh.
Oui, mais revois l'action, Chamakh, en fait, en levant le bras, il touche le ballon légèrement de là. Ouais. C'est pour ça qu'il relâche le ballon, donc il n'y avait pas de souci.
Non, mais sinon, il a été rassurant.
Non, mais généralement, si jamais. Les arbitres, ils sifflent pas juste pour pas hacher le jeu bêtement, mais si jamais Schmach ou un autre Bordelais récupère le ballon et qu'il y a but, il revient sur la faute, quoi. Donc bon, il a fait un bon petit match.
Ok, on est d'accord sur la prestation de Mandanda. Bon, on passe à la ligne défensive maintenant. Tout d'abord, Taïwo, t'en avais touché 2-3 mots tout à l'heure, Marvolo, tu l'avais trouvé assez bon, moi aussi, moi qui le critiquais également assez souvent. Je l'ai trouvé correct, il a fait son match. Et puis, j'ai trouvé qu'il a apporté certaines fois un petit peu sur son côté. Non, moi j'en tire un bon petit match là encore de Taïwo, pas exceptionnel. mais je trouve que s'il y avait un à retenir de la ligne défensive, presque un des meilleurs, je mettrais ouais, lui et peut-être Diawara. T'en penses quoi, Yann?
Alors moi personnellement, Taiwo, dans l'impact physique, il a été présent. Bon, bah, c'est normal, c'est l'une de ses qualités principales. Sinon, dans les duels au sol, bon, Gouffran a peut-être pris le dessus quelques fois, mais non, Taiwo a été très bon. Mais il a aussi apporté sur quelques centres, ses centres brossés où il sait très bien faire. Donc c'est vrai que c'était important parce que c'est vrai que Bonnard par exemple sur le côté droit n'a rien apporté. Bon, c'était peut-être une consigne de Deschamps, je sais pas. Mais c'est vrai que Taiwo a amené de la variante un peu dans le jeu marseillais, donc c'était intéressant. Par contre, j'ai très très bien aimé Enze qui a fait un match à la Enze et voilà quoi, c'est cool, il est olympien à 100%.
Roméo, t'es d'accord avec l'analyse de Yann?
Oui, bah concernant Enze, oui, il s'est un peu rattrapé par rapport au match Rennais la semaine dernière. Bon, il a pas eu le même type d'attaquant en face. Il y avait pas un Bangoura qui le faisait ou un Diagne qui le faisait gigoter dans tous les sens. Mais bon, il a été propre, il a fait son boulot. Il y a rien à redire. Donc à l'image de Mandanda, rien à redire.
Ok. Bonnard, pas très bon match, t'es d'accord avec ça, Marvolo?
Non, pas vraiment. Bonnard, il est toujours correct, quoi. Il est pas monté, c'était sûrement une consigne. Et puis c'est bien, de toute façon, si tu as les deux latéraux qui montent autant, c'est généralement pas bon signe. Donc c'est bien qu'il y en ait toujours un qui reste. Et puis comme Théo, il adore monter, non.
Non, d'accord.
Je trouve qu'avec Bonnard, les gens sont généralement trop durs, quoi. C'est un gars qu'on a acheté 500 000 euros. Il fait quasiment aucune erreur en 2-3 ans qu'il est chez nous. Faut arrêter, quoi. Il a fait son match, puis c'est tout.
Ok. Bien, passons maintenant au milieu de terrain là qui a été une grosse question. Le milieu de terrain, donc je rappelle, composé là l'espèce de petit triangle de Mbia, Edouard Cissé sur le côté droit et Chérou. Roméo, t'as bien aimé lequel des trois? Chérou, je pense, je suppose.
Oui, Chérou, vraiment, c'est Chérou. Hein. Il déçoit rarement et là il était vraiment bien. Mais sinon, et Mbia, grosse présence physique d'Mbia qui a fait un excellent match.
Pourquoi Brielle a pas été titularisé à la place de Cissé?
Je pense que Deschamps a voulu renforcer ou densifier, prends le terme que tu veux, le verbe que tu veux, l'impact physique au niveau du milieu de terrain. Il a préféré mettre Cissé, quoi. Je pense que c'est de ce côté-là. Voilà. J'ai rien à reprocher à Cissé. Hein. Comme d'habitude, il est propre, discret.
Ouais, sobre, mais assez.
Toujours sobre, mais efficace.
Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que on disait la semaine dernière que Gabriel avait pour l'instant presque le meilleur rendement de toutes vos recrues. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre de le voir sur le banc comme ça, mais effectivement, s'il a voulu un peu densifier tout ça, Didier Deschamps a eu raison de le mettre, puisque là encore, il a livré une bonne prestation, comme on vient de le dire. Yann, toi aussi, t'es d'accord sur le milieu de terrain marseillais costaud, avec un Chérou qui sort quand même du lot?
Ouais, voilà, un milieu de terrain qui a fait son travail de repli défensif, ils ont été très rigoureux sur ça. Par contre, à un moment, en début de deuxième mi-temps, ils arrivaient plus à tenir le ballon. Et notamment Edouard Cissé qui a perdu beaucoup de ballons dans les transmissions. Je pense que si Valbuena serait pas rentré à la place de Koné, je pense qu'on aurait pu voir l'entrée d'Abriel en deuxième mi-temps. Ça aurait été peut-être plus intéressant, plus de vitesse vers l'avant, plus de percussion, et ça aurait été intéressant, je pense, de voir Brielle. Mais bon, sinon, ils ont fait un travail correct dans le placement et dans la récupération.
Ok, très bien. Passons maintenant à l'attaque, si vous voulez bien. Donc, un trio qui était composé au début du match de Niang sur la gauche, évidemment, Brandao en pointe numéro 9 et Koné sur la droite. Koné qui a dû céder, enfin, un trio qui a vite changé, parce que Koné a dû céder sa place à la 11e ou 12e minute. Il a cédé sa place à Valbuena, donc. Est-ce que vous avez des nouvelles de Koné? Est-ce que vous savez ce qu'il a exactement, Roméo?
Non. Donc je sais pas, mais apparemment, bah il avait un bandage, un espèce de strap, plusieurs straps sur, bah ça allait de la cuisse à
c'est le genou, juste en dessous, c'est le genou. Ouais, c'est le genou. Il a dit un canal.
Voilà, bah voilà, c'est le genou alors.
C'est planus, c'est tombé. Planus est tombé sur lui, hein. Voilà. Enfin, sur son genou.
Ok, donc ça a vite changé, donc on peut pas évidemment ne t'éconner. C'est dommage, que ça aurait été bien de le voir dans un gros match comme ça, lui qui est souvent dans la balance avec Ben Arfa. Donc Valbuena est rentré. Yann, t'en as pensé quoi? On a dit Niang très discret. T'as bien aimé Valbuena qui s'est quand même montré actif, je le disais tout à l'heure, on l'a vu un petit peu partout certaines fois.
Bah déjà, je crois que Deschamps il avait demandé beaucoup de travail défensif aux deux ailiers, donc à Niang et à Valbuena. Et ils ont fait leur travail défensif, ça c'est certain. Maintenant, Valbuena, sur le peu de ballon qu'il a donné, bah déjà il est resté beaucoup sur le côté droit. Il aurait pu des fois rentrer dans l'axe un peu, être imprévisible un peu, mais il est toujours resté sur son côté droit. Il a su parfois effacer son adversaire, mais dans la dernière passe, il n'a pas été bon. Voilà. Pour moi, il n'a pas été bon dans la vérité de ce qu'il fallait faire, il n'a pas été bon.
Ok. Marvolo, t'es aussi dur que Yann sur le sujet?
Franchement, non. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai trop mal en ce moment, mais j'essaie de voir le côté positif en ce moment. Donc voilà.
Non, peut-être un petit commentaire quand même sur l'attaque. Brandao a quand même raté à un moment une belle tête plongeante. Je sais pas, toi qui aimes bien des fois quand même le descendre ce soir, non, t'es assez clément aussi.
Non, c'est pas ça, c'est que au bout d'un moment, on va pas faire toutes les semaines les mêmes commentaires sur lui. Tu me parles de sa tête qu'il rate complètement. Il y a aussi un moment, une action où Diawara monte et il fait un sprint de 80 mètres quasiment. Et il n'est pas capable de lui donner un bon ballon sur 5 mètres, quoi. Ça, c'est le genre de passe que même Makelele réussit à te mettre. Donc, si après chaque semaine, on doit venir le fracasser, au bout d'un moment, je crois que ça me fait un peu chier, quoi. Maintenant, on a Brandao, va falloir s'en contenter, malheureusement. Et voilà, faut pas oublier aussi que Brandao, il nous a fait une superbe frappe où il a mis tout le monde par terre, quoi. On attendait tous un décalage côté gauche, et puis tente sa chance, ça tape sur le poteau. Ouais, c'est ça, quoi. Je pense que ça sera insuffisant cette année. Enfin, je pense honnêtement qu'il va falloir soit recruter en janvier, soit donner un peu plus sa chance à Morientes, même si là aussi il est pas vraiment dans le coup.
Non, est-ce que j'allais dire une nouvelle entrée de Morientes, vraiment, toi qui l'avais pas trouvé bon la semaine dernière face à Rennes, la mi-temps exactement qu'il a fait. Là encore, je sais pas ce que t'en as pensé, Roméo, mais c'est vrai que Morientes, moi il me déçoit un peu par rapport à ce que je connaissais. Alors évidemment, j'ai pas suivi sa période à Liverpool puis à Valence. Marvolo saura mieux en parler que moi, mais je trouve qu'il est vraiment vraiment descendu. Oui, Marv.
Le problème de Morientes, c'est que j'ai l'impression qu'il a un petit peu trop sous-estimé la Ligue 1, ou qu'il pense que ça va se passer aussi bien que qu'à l'époque monégasque. Donc, je le trouve très très nonchalant. Déjà, moi, je pense honnêtement qu'avec un peu plus d'application, on aurait gagné Rennes, parce qu'il a eu 2-3 actions et surtout une action qu'il reçoit dans les 5 mètres, il trouve le moyen de tirer sur Duchez, quoi. C'est pas normal.
En même temps, Morientes a pas eu beaucoup beaucoup de ballons il n'y a pas eu beaucoup de ballons en fait dans ce qu'il a eu là dans les 20 minutes où il a joué, il a pas vraiment eu de ballons à jouer où on aurait pu voir un peu ce qu'il donnait. Donc moi je réserve mon jugement pour Morientes quand il y aura un peu plus de temps de jeu et un peu plus de ballons à jouer.
Après, c'est une histoire de sensation. Moi, je l'ai vu toujours mauvais, toujours en retard, il prenait toujours les mauvais choix. Il a reçu 2-3 ballons et à chaque fois, il essaie de mettre des petits ballons à Valbuena ou Ben Arfa, il a toujours raté ses passes. Voilà, quoi, au bout d'un moment, t'es pro, tu dois avoir un minimum d'application et puis c'est surtout cette nonchalance, quoi. Comme je le disais souvent, en Amérique du Sud, je l'ai encore rappelé hier, au minimum, quoi, si t'es pas bon, au minimum, tu mouilles le maillot, quoi. Brandao, c'est ce qu'il fait. Donc après, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je vais pas le fracasser toutes les semaines. Le mec, il a dû encore courir 10 km. Morientes, il est là, tranquille, il est en déambulateur avec sa ventoline à la main et son Twix dans l'autre, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant, il devrait se bouger un peu plus le cul, quoi.
Moi, j'attends quand même de le voir un peu plus de temps de jeu.
Roméo, tu serais de quel avis, toi, plus donner un petit peu du, enfin laisser un peu de temps avant de juger Morientes ou comment c'est, enfin t'es déjà un peu énervé par ses performances.
Bah là, il a pas beaucoup de temps de jeu. Hein. Il est rentré une minute ou deux contre Grenoble. Il est rentré une dizaine de minutes contre Lille. Pareil contre Rennes, une quinzaine de minutes ce soir, ça fait additionné, ça fait pas énormément. Moi, j'attendrai de le voir sur un match entier où il débute pour le juger vraiment. Mais bon, c'est clair que pour l'instant, on va pas lui lancer des fleurs. C'est pas bon pour l'instant. C'est pas bon.
Mais enfin, il y a un truc où je suis pas trop d'accord avec vous deux, c'est qu'on est pas, je suis pas en train de le juger en fonction des minutes, si tu veux. Je suis en train de juger en fonction des opportunités qu'il a eues à Lille. S'il était moins nonchalant, à Rennes, s'il est moins nonchalant, on revient avec les 3 points. C'est ça.
Non, mais je remets pas en question sa nonchalance, oui.
C'est ça, c'est qu'il a eu une occasion énormissime. Et là, que tu aies du temps de jeu ou pas, que tu sois fatigué ou pas, putain, c'est Morientes, quoi. C'est un mec qui a un pédigré énorme. C'est pas, le mec, il a joué des finales de Ligue des Champions. S'il arrive pas à marquer dans les 5 mètres, on n'est pas dans la merde, quoi. Et puis c'est ça que je lui reproche. Après, la nonchalance, bah moi je l'ai vu à Valencia, même s'il était pas toujours bon, il courait, il se battait. Là, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu, quoi. Il est en pré-retraite, et c'est, bon, c'est un peu chiant, quoi.
En même temps, là, sur la fin de match, les Marseillais attaquaient à 3 contre 6 Bordelais. Donc on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de quoi exploiter quelque chose, quoi, personnellement.
Mais enfin, sur la dernière action qu'on a eue, la frappe de Cissé, on était 7 ou 8, quoi. Tu avais Ben Arfa qui avait débordé, tu avais Brandao Morientes devant, Cherou qui était pas loin, et Cissé qui récupérait le ballon. Bon, là, on pourrait lui reprocher sur cette action-là, mais comme je te l'ai dit, il a reçu quand même 5-6 ballons. Et il a raté toutes ses passes. C'est ça que je reproche. C'est qu'il soit pas décisif tout de suite sur ce match-là. Oui, c'est normal. Mais de là rater toutes ses passes, quoi, c'est plus chiant.
On est d'accord. On a bien compris. Ton jugement sur Fernando Morientes, Marvolo. Maintenant, on va dire un petit mot justement de Ben Arfa. On attendait beaucoup, il est rentré 5 minutes. Il a eu le temps quand même de faire une action chaude. Donc on a trouvé le Ben Arfa que beaucoup de monde attendait. Il a peut-être gagné. C'est un peu difficile de dire ça, mais Roméo, est-ce que tu penses que lui, il a pu gagner sur cette action-là une place, par exemple, de titulaire pour la semaine prochaine, vu que pour il y a dans 2 semaines, si Koné n'est pas rétabli.
Je pense, la place de titulaire, il l'a pas forcément gagné sur cette action, mais sur la blessure de Koné. Là, à mon avis,
il a l'avantage sur Valbuena.
Oh oui,
maintenant oui.
Oui, je pense. Oui.
Après ce soir, oui. Parce qu'en une action, comme t'as dit, il a plus apporté, il a mis plus de danger en une action que Valbuena en 70 minutes. Donc moi j'ai été déçu que Deschamps le fasse rentrer à la 84e minute. Un joueur comme ça qui peut faire la différence sur une action, on le sait qu'il peut faire la différence et qui peut débloquer des matchs comme ça où c'est un peu
aussi
fermé.
Des fois il passe totalement à travers.
Voilà, mais tu sais qu'il a.
Valbuena est peut-être un peu plus régulier. Il va peut-être faire moins d'éclat, un moins gros coup d'éclat sur une action. Mais Valbuena, c'est quand même, enfin, pas une valeur sûre. Mais Valbuena, tu sais que, outre le fait que il va avoir une petite tendance à plonger, tu vas avoir quand même un Valbuena qui pourra t'apporter sur certaines actions un truc peut-être pas aussi bien qu'un Ben Arfa, mais enfin moi je trouve que c'est plus la sécurité de mettre un Valbuena pour l'instant qu'un Ben Arfa.
Je pense que c'est ce que Deschamps a fait, c'est Valbuena est rentré parce que c'est plus sécurisant d'avoir Valbuena déjà parce qu'il fait un travail défensif peut-être plus important aussi, mais je pense que avec le déroulement du match, je pense que l'entrée en jeu de Ben Arfa un peu plus tôt aurait peut-être permis d'avoir 2-3 occasions beaucoup plus importantes que ce qu'on a eu, parce que c'est ce genre de joueur qui peut faire cette différence et qui en plus de ça c'est un joueur talentueux qui est sur le banc de touche, qui voit ce match du banc de touche et qui à mon avis il sait que quand il va rentrer il va devoir mettre le feu, et c'est ce qu'il a fait, mais en 5 minutes de jeu il n'a pas pu avoir beaucoup d'occasions non plus.
Très bien. Messieurs, laissez-moi vous présenter un nouvel invité ce soir. Messieurs, voici ce très cher Raled qui nous a rejoint. Comment vas-tu?
Bah, ça va bien, et désolé du retard encore.
Ah, t'es encore pardonné, ça va.
Passons merci, cette fois. C'est gentil. Peut-être que tu voulais me lancer un peu sur le match de Marseille-Bordeaux.
Oui, justement, demander peut-être ton commentaire. Un peu d'ensemble sur ce match-là.
Comme l'a dit l'équipe, il manquait que les buts, quoi. Et franchement, en première mi-temps, j'ai vu que Brandao il a raté une grosse occasion sur un centre de Valbuena. Quand tu vois qu'est-ce qu'il rate, tu sens bien que tu vas bien te faire chier pendant toute la soirée. Il n'aura pas de but, quoi. C'est ça le truc. Il y a eu un poteau et une barre. Marseille gagne au point, mais bon. On est pas en boxe, on est au foot. Et au foot, l'important c'est de mettre le ballon au fond et là il y a zéro but quoi. Et ça commence à être problématique à Marseille, le manque d'efficacité offensive. Et comme il s'appelle Marien Thes commence à me décevoir de plus en plus.
Ok. Justement, quand on parle de manque d'efficacité offensive, ça serait peut-être un peu notre petit sujet sur l'équipe marseillaise ce soir avant de passer à Bordeaux et à une évaluation, est-ce que Didier Deschamps n'a pas été un petit peu trop frileux, un peu trop peureux pendant ce match-là, Roméo? Est-ce que tu penses pas que, par exemple, en alignant Cissé, en mettant par exemple Valbuena à la place de Ben Arfa, on disait des petites choses comme ça, il a pas joué plus la...
Oui, je n'ai pas entendu, tu n'as pas fini ta phrase, Arnaud?
Oui.
Oui, j'ai pas entendu la fin de ta phrase, excuse-moi.
Oui, est-ce que Deschamps n'a pas trop joué la sécurité à mettre, par exemple, comme on disait, un Cissé au milieu de terrain ou un Valbuena plus qu'un Ben Arfa? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu un petit côté frileux quoi qu'on peut lui reconnaître ce soir?
Je dirais pas frileux, mais plutôt je saurais pas le dire, tu vois, mais il a peut-être joué trop la sécurité, mais je pense pas que c'est vraiment qu'il soit frileux. Il a voulu mettre plus d'impact physique au milieu de terrain, mais il a pas vraiment fermé le jeu, donc je pense pas qu'on puisse parler de frilerisme, enfin je sais pas le terme exact.
Frilosité.
Voilà, Raled, voilà, note le mot frilosité.
Marvolo, je te pose la même question, alors tu me promets de pas m'insulter, s'il te plaît, parce que je sais que c'est le genre de question que t'aimes pas trop, mais je te la pose quand même.
Frileux peut-être sur la fin, après sur la compo de départ, non, il avait le choix à faire d'aligner Abriel ou Cissé, il a choisi Cissé pour sûrement contrecarrer un petit peu le milieu de terrain bordelais, non, pas spécialement frileux sur le 11 de départ, mais après, ouais, il aurait peut-être pu faire rentrer Ben Arfa un peu plus tôt. Ça pour le coup, je suis OK avec toi.
Moi aussi, je suis d'accord avec Marvolo. Moi, je suis d'accord avec Marvolo, c'est ce qu'il a dit sur Ben Arfa, là, ce qu'il aurait dû le faire rentrer plus tôt. Ça aurait été mieux.
Roméo, t'es d'accord avec ça?
Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. On sait, c'est qu'il aurait pu donc accélérer le jeu, donner un peu plus de vitesse, de percussion, sachant que les défenses en fin de match commencent à être un peu plus fatiguées, ouais. Et un peu plus le faire rentrer avant, ça aurait été bénéfique, je pense.
Bon, très bien.
Et je voulais, on peut signaler aussi que c'est la fin de la série de 14 victoires de suite de Bordeaux.
Effectivement, très bon point pour Roméo. On va passer donc, on l'a dit, Didier Deschamps, loin d'être nommé point noir de l'équipe ce soir, puisque lui aussi a fait son job. C'est difficile de sortir vraiment un joueur un peu plus bas que l'autre, à part peut-être Niang, dans cette équipe marseillaise. On va passer à Bordeaux. Carasso que j'ai trouvé très bon. Alors pour les anciens Marseillais, à commencer par toi, Yann. Pas trop de regrets de voir un Carasso comme ça dans les buts en face. Enfin, tu vas me dire, t'as Mandanda dans les tiens, donc.
Ouais, voilà, je pense que Mandanda a du talent, Carasso a du talent. Marseille a fait le choix de Mandanda, bon. Voilà, non, c'est vrai que Carasso a fait un bon match aujourd'hui, même s'il a pas eu grand chose à faire, sauf vers la fin, là où il a eu deux arrêts consécutifs à faire. Mais voilà quoi, non, il a été sérieux et serein, donc c'est bien pour Bordeaux.
Moi je suis pas, tout le monde sait que j'aime Carasso et puis je persiste à dire qu'on aurait dû garder Carasso. Après, bon, on va pas non plus se plaindre parce qu'on a Mandanda, mais moi ça me fait toujours un peu chier de voir un petit Marseillais comme ça qui s'éclate ailleurs alors qu'il aurait pu être avec nous, quoi.
Ouais. Ouais, mais je pense que c'est Mandanda là, et quand Carasso s'est blessé, il a fait plusieurs matchs, voire une saison entière de folie en fait. Donc après, il fallait faire un choix parce que Carasso voulait pas rester en place. Bon, Marseille a fait le choix de Mandanda. C'est discutable, mais bon. Sur le coup, je pense que personne a négligé ce choix plus que ça.
Je pense que beaucoup de supporters de Marseille sont, enfin, il y en a beaucoup qui partagent l'avis de Marc Volo sur ce point-là. J'avais déjà vu. Maintenant, passons à la défense. Les latéraux, avant de passer à Siani et Planus, les deux latéraux, ils se sont pris chacun un carton jaune. Donc, les deux petits latéraux assez rapides, la Chalmé, Tremoulinas, Roméo, t'en as pensé quoi? T'as bien aimé?
Oui. Fidèles eux-mêmes, hein, ils ont été dans la lignée de leur match précédent, surtout Tremoulinas.
Tremoulinas, bon, vraiment, il m'impressionne, je le connaissais vraiment pas beaucoup avant la saison dernière. Et là, depuis qu'il a fait, il me semble, faudra redemander au Bordelais, mais il commence à bien jouer depuis la moitié, mi-saison dernière. Puis là, il a commencé la saison titulaire. Il a remplacé Placente la saison dernière, il me semble.
Je sais que certains Bordelais avaient peur du duel Niang-Chalmé parce que Chalmé il n'avait pas été top contre Nice et Niang sortait d'un excellent match contre Grenoble, d'un bon match contre Lille et contre Rennes. Donc je sais qu'il y avait une petite crainte du côté de Bordelais pour ça et finalement c'est Chalmé qui est sorti vainqueur de ce duel.
On les a pas vus beaucoup offensifs les latéraux bordelais comme à leur habitude. Bon, je pense que c'était une consigne de Laurent Blanc pour pas voir Niang ou Valbuena partir en contre et apporter la supériorité, mais défensivement ils ont été sérieux, mais bon, offensivement on les a pas vus, mais je pense que c'était prévu comme ça au départ.
Ouais, j'ai trouvé que Tremoulinas encore, il avait fait 2-3 petites montées, mais oui, c'est vrai que c'était peut-être moins tranchant
d'habitude. Ouais, ils apportent plus, hein.
Ouais. Les deux. On est d'accord. Défense axiale, Planus, excusez-moi, Siani. Un commentaire, Marvolo, je sais que tu es fan de Siani, un petit mot justement sur lui. Une petite déclaration d'amour, t'as le droit.
Putain, il est super fort, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Le jaillissement qui fait le petit tac la terre pour couper le ballon à Niang, c'est un super geste défensif et puis il est très très costaud parce qu'on l'a vu aussi, Niang essayait de passer en vitesse mais en puissance il ne pouvait pas déborder Siani, il s'est jamais jeté, il a toujours attendu le dernier moment pour lui bloquer la route soit en couvrant le ballon soit en le poussant un peu vers la ligne, donc c'est un super joueur quoi. Je le redis, c'est dommage qu'on est plus misé sur Diawara que sur lui, quoi.
Et une petite statistique qui concerne Alou Diarra, on en a pas beaucoup parlé, mais ça marque un peu, ça montre un peu le gros match qu'il a fait. 98% de passes réussies, 6 duels gagnés contre 3 perdus, souligner un peu
milieu défensif, donc c'est lui qui touche normalement le plus de ballons. C'est énorme quoi,
c'est vraiment des grosses stats et
voilà. Il a intérêt à avoir un grand pourcentage de passes réussies à son poste. Hein.
Tu te rends compte? C'est sûr. Mais c'est plus que Bia. Par exemple sur ce match. C'est clair qu'il a intérêt, mais c'est pour souligner son gros match.
Non mais il a raison aussi, Raled, sur le fait que comme à côté de lui il avait Gourcuff ce soir, c'était pas le mec qui pouvait lui récupérer un ballon s'il faisait une connerie, Diarra. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros challenge qui reposait sur ses épaules. Alors c'est bien de mettre souvent un récupérateur, mais il faut jamais que lui soit à la ramasse parce que le numéro 8 à côté de lui n'est pas là souvent pour le couvrir, pas comme quand il y a 2-6 l'un à côté de l'autre.
Moi par contre, Roméo, si tu as le nombre de ballons récupérés par Diarra, ça m'intéresserait plus.
Alors j'ai pas le nombre de ballons récupérés, mais je sais qu'il a touché.
Ça m'intéresse plus, pas. Tu vois, pour un milieu défensif,
Oui.
D'accord. Voilà, tu vois, pour un milieu défensif, c'est plus intéressant le nombre de ballons récupérés. C'est son rôle.
Je vais chercher ça. Ok. Juste pour.
Merci mon petit Romeo.
Fernando sur le côté droit, Yann, t'en as pensé quoi? Enfin, pas un poste nouveau pour lui, mais on est plus habitué à le voir dans l'axe pour ceux qui connaissent un petit peu moins Bordeaux comme moi.
Offensivement, il a été discret, mais dans la conservation, il a été très bon, comme l'ensemble des Bordelais. Je trouve qu'ils ont.
On voyait quand même que c'était pas un ailier, quoi. C'est.
Ouais, voilà.
On sent que, voilà, comme tu dis, dans la conservation de balle, dans la construction, c'est un mec qui est excellent parce que il a une très bonne vision de jeu, mais c'est un mec que tu fais jouer à côté de Diarra, quoi. Pas, peut-être pas sur le côté.
J'ai trouvé les Bordelais bien meilleurs dans la tenue du ballon. Je les ai trouvés bien meilleurs que les Marseillais, d'ailleurs.
Le choix de Gouffran devant, enfin vous en pensez quoi, je sais pas. Est-ce que je sais pas si quelqu'un pourra nous dire pourquoi on a préféré Kavenagi à lui, Marvolo, oui. Enfin si on a préféré Gouffran à Kavenagi, pardon. Je sais pas si tu, je sais pas si quelqu'un est au courant.
Ouais, ben Laurent Blanc adore Kavenagi quoi, c'est. Maintenant, on le fait. Dès qu'il y a un changement tactique, c'est toujours Kavenagi qui saute. Donc, c'est pas une surprise. Après, c'est dommage parce que lors des derniers matchs, Gouffran était bien meilleur quand il est entré en jeu. Il apportait beaucoup plus à l'équipe. Et puis là, il fait un match moyen. Donc, pas trop impressionné. Donc, c'est peut-être un mauvais choix tactique. Mais bon, quand on sait à quel point Laurent Blanc aime Kavenagi, c'était pas surprenant.
Ouais. Sinon une un petit mot sur l'attaque bordelaise qui a pas été quand même plus en réussite que l'attaque marseillaise. Je sais pas, Ralet, t'en as pensé quoi, toi qui a bien critiqué quand même l'attaque des Olympiens, Bordeaux aussi pas exceptionnel quoi.
Ouais.
Chamac, etc.
Chamac c'était moyen. Ouais, Gouffran, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas très bon en attaque. J'aurais préféré plus Kavenagi qui rentre. Enfin, qui est plus judicieux. Non, mais bon, les deux défenses ont été bonnes ce soir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de but. Même Gourcuff n'a pas vraiment pesé sur le jeu offensif bordelais. C'est peut-être ceci qui explique cela et voilà, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on parlait de l'importance de Gourcuff il y a même buteur, la semaine dernière. Bah oui, il plante encore un doublé la semaine dernière. C'est vrai que là ce soir, quand on le voit un petit peu moins, on voit déjà les difficultés pour se procurer des occasions. Ouais, Marv.
Bah il est moins bon tout simplement parce que c'est Marseille en face. Là c'est plus Nice, c'est plus Lens. Là c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. C'est trois fois de suite que Marseille va en Ligue des Champions. Alors au bout d'un moment. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est exactement ça, c'est facile de mettre 4 buts à Nice, c'est facile d'en mettre 4 à Lens, à Marseille au Vélodrome, c'est pas facile, et puis c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est pas que Gourcuff a été moins bon, c'est que Gourcuff a eu des adversaires beaucoup plus forts en face. C'est toujours plus facile de dribbler Mabiala que Diawara. Hein.
Mabiala. C'est vrai que vu ce qu'il a fait hier, t'as le droit de le chambrer un petit peu, Marvolo, vu que tu le détestes en plus.
Non, je le déteste pas, mais j'ai pitié de lui, quoi. C'est un joueur hyper mauvais. La semaine dernière, il était minable. Cette semaine encore, il est minable. Voilà. Le fameux
Hein,
Khaled.
Non, mais lui, c'est l'exception, lui.
Non mais c'est de toute façon quand il part et que tous les Parisiens sont contents, bah voilà quoi, on avait une petite idée du niveau du gars.
En tout cas, il est titulaire quand même à Nice. Bref, on un petit mot aussi sur à nouveau vous allez me dire il est rentré que 15 minutes mais Plasil qui m'impressionne toujours pas. Les Bordelais étaient très sceptiques sur lui depuis le début de la saison, ça change pas. Roméo, t'en as pensé quoi toi? J'ai trouvé presque invisible quoi.
Pardon.
Plasil, sur sa rentrée.
Ouais, invisible.
Ouais, voilà. Je l'ai rien trouvé. Yann, je pense que t'es du même avis que nous, quoi. C'est une déception quand même, parce que Bordeaux l'avait pris justement pour faire pas de la concurrence à Wendel, mais à lui mettre quand même une petite pression, lui mettre quand même un bon remplaçant. Et finalement, à chaque match, il a vraiment rien fait, quoi.
Là, il a apporté une petite touche technique, mais c'est vrai qu'il a pas eu grand chose à faire non plus. Bon, il servira peut-être, je pense, plus pour les prochains matchs, quand les matchs vont commencer à s'accumuler, il va avoir plus de temps de jeu, et là on pourra vraiment dire s'il est utile, si son arrivée est bonne, voilà.
Bon, très bien. Un petit mot juste, à qui profite ce 0-0, ce match nul, plus peut-être quand même à Bordeaux qui conserve son fauteuil de leader, ou Yann?
Bordeaux.
Ouais.
Bordeaux, même si c'est vrai que Marseille est encore en rodage avec toutes leurs tous les nouveaux joueurs, mais ça profite à Bordeaux, faut pas se le cacher. Je pense qu'à Chabandelmas au retour, on aura pas ce genre de match où Bordeaux va nous attendre derrière, un peu comme Marseille a fait aujourd'hui, où ils ont plutôt attendu et procédé en contre ou en phase directe. Donc je pense qu'on aura un Bordeaux différent. Donc voilà, je pense que c'est quand même 2 points perdus pour le titre, quand même.
Ok, très bien. Bon, eh ben, on va pouvoir passer, on va dire, un petit commentaire des matchs de cet après-midi, surtout du Paris Saint-Germain, que j'ai pu regarder personnellement. Pour rappel, donc 0-0 ce soir au Vélodrome. Marseille se classe 5e juste derrière Montpellier, égalité de points, mais avec une différence de but inférieure. Marseille compte plus 3 de différence de but et Montpellier plus 5. Et Bordeaux, donc, est premier de ce classement de Ligue 1 avec 10 points et plus 8 de différence de but, donc qui devance le PSG et Lyon, qui sont à plus 6 tous les deux. Alors, un mot justement donc sur ce Paris Saint-Germain qui jouait cet après-midi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vu le match. Je sais que Roméo a regardé un petit peu. Raled, toi ?
Ouais, j'ai vu.
T'as pu voir le match. Un superbe but de Jérémy Clément.
Ouais.
Il en met pas énormément dans sa carrière.
Ah non, mais de toute façon, Clément, j'en avais parlé la semaine dernière, je disais que c'était l'un des meilleurs parisiens, et j'ai dit que s'il montait de plus en plus, s'il commençait à prendre le jeu à son compte, et ben ça allait faire du bien au PSG, et c'est ce qui est arrivé cet après-midi.
Effectivement, il prend de plus en plus d'assurance. On lui reprochait souvent sa non-mobilité et le fait qu'il ne porte pas assez le ballon. Et là, effectivement, plusieurs fois, je l'ai vu faire des passes soit sur le côté assez saignant ou ouvrir à un moment à Erding. Là, des choses qu'on voyait exactement pas avant, puisqu'il se contenait au rond central. Et là, c'est bien. Clément l'a tenté sa chance. Un but que je conseille à beaucoup de monde. Là, on a eu Bastos samedi soir. On a eu Clément cet après-midi. C'était deux jolis buts. Louis Ndoula à la 77e minute portait le score 2-0 et Jallet à la 90e minute après un festival de Cessaignon finissait le boulot. Bon, le score de 3-0 est un petit peu lourd à encaisser pour les Lillois, je trouve. T'es pas d'accord, Raled?
Ouais, c'est vrai que c'était un peu dur. C'était un peu lourd le score pour Lille. Ils avaient fait un très très bon entame de match. Ils nous ont bien bousculé. On n'a pas déployé notre jeu habituel, même si je vais revenir après sur le jeu du PSG. On a eu beaucoup de mal à trouver les intervalles, à enchaîner 2-3 passes de suite. Et ensuite, au bout de la 20e, 30e minute, ça a commencé à se. Depuis le but, ça a décoincé le PSG, ça a ouvert beaucoup d'espace dans la défense lilloise. Et après, le deuxième but de Louis Ndoula nous a fait beaucoup de bien en deuxième mi-temps. Et après voilà quoi. Et après la chance était de notre côté. On a cette petite boulette de Butel qui alourdit le score.
Ouais. Bonne rentrée de Christophe Jallet qui réussit quand même une passe décisive.
Excellente.
Ouais. Qui se donne bien à fond sur son petit côté droit. Il réussit un beau but. Il en avait réussi un la semaine dernière qui vous offre quand même la victoire parce que à 3-1 on se dit que le but sert pas à grand chose, mais on n'oublie pas que le score a été réduit à 3-2 dans les arrêts de jeu.
Exactement. Donc,
ouais, bon coup des Parisiens, Christophe Jallet, bon petit remplaçant, plus polyvalent, parce que on l'attendait à un poste d'arrière droit pour mettre un peu de concurrence à Seara. Finalement, il se retrouve à remplacer souvent Djouli lors des 30 ou 20 dernières minutes. Donc c'est bien si en plus
il peut même jouer défenseur central.
Ah d'accord, ah, je savais pas du tout. Je savais pas du tout.
Bon.
Ouais.
Bah, il est très polyvalent.
Bah en plus, ouais, puis vu le niveau de jeu qu'il montre, il est très rapide, il est très intéressant. J'ai été aussi agréablement surpris, on va continuer du côté parisien avant de passer au côté lillois, agréablement surpris par la performance, on va dire, de comment Makelele au milieu de terrain. Ben Cessegnon également aussi, mais Makelele que je trouvais toujours un petit peu sur la retenue là.
Les relances, c'est les relances. Le problème, voilà. Le problème de Makelele, c'est qu'il récupère bien les ballons, mais c'est les relances qui sont merdiques. C'est ça le problème. Ben,
aujourd'hui justement, il a pas trop été, il a pas eu trop rencontré ce problème-là, j'ai trouvé.
Ouais, c'est vrai.
Il a assez bien trouvé un mec comme Cessegnon. Cessegnon, on y reviendra après. Oui, Yann, tu voulais réagir par rapport aux Parisiens.
Moi, ouais, je trouve que défensivement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé Paris très serein. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un PSG aussi serein.
Ouais, mais à un moment.
C'est vrai que Sako s'est amusé.
Ouais,
mais
ouais, voilà, Sako s'est amusé à un moment. Gaffe,
Ouais, Sako, il a failli faire une petite boulette, mais je trouve que même collectivement, hein, pas éventuellement toujours individuellement, mais collectivement, j'ai trouvé Paris bien en place. Et
Traoré a fait un super match.
Pour une fois,
a fait un très bon match.
Ils sont bien entendus, pourtant. Ils sont pas habitués à jouer ensemble, puisque Traoré est le remplaçant de Camara. Ouais. Et effectivement, Sako Traoré, ça a très bien fonctionné. Bon, Armand, il n'y a pas besoin de le souligner. Puis Serra, qui est de plus en plus appliqué défensivement, et puis qui offre toujours quelques belles accélérations.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, puis ils ont su bien prendre Hazard et Gervinho, des joueurs qui mettent un peu le bordel dans les défenses. Ils ont su bien défendre sur ce genre de joueurs, ce qui est pas toujours évident. Même si en début de match, Hazard a créé deux grosses occasions pour les Lillois, hein, qui auraient pu coûter cher d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, justement, j'ai été un petit peu déçu quand même par Hazard qui a vite disparu de la circulation après sa belle balle en retrait et une ou deux accélérations, on l'a plus vu. On reviendra sur peut-être le groupe Lillois avec vous tout à l'heure. On va finir donc milieu de terrain parisien. Oui, Cessegnon, en dire deux mots avec Khaled, toujours son petit défaut. Alors exceptionnel, par exemple après le but de Jérémy Clément, il arrive à faire un slalom dans la défense et puis là encore c'est la finition qui pêche quoi. Comme on dit, il peut dribbler deux ou trois joueurs, mais à chaque fois le dernier geste, par nonchalance ou par manque d'attention, il va le rater. Deux ou trois fois encore, comme sur le dernier but là du Paris Saint-Germain, il s'est amusé avec les défenseurs. Donc on trouve vraiment un bon Cessegnon bien épanoui sur son côté gauche là, qui trouve de plus en plus ses marques. Et non, bah c'est de bon augure quoi. Faut juste.
Non mais pourtant Arnaud, son début de match a été assez catastrophique à Cessegnon. Faut dire la vérité, moi j'ai regardé les 20 premières minutes, il était catastrophique et après il a commencé à se mettre en route comme un diesel quoi. Il a mis du temps à démarrer quoi. Et c'est ça son problème, c'est que des fois on a besoin des grands joueurs dès maintenant et pas attendre 20 minutes.
Voilà. Ouais, bah, c'est vrai que toute l'équipe du Paris Saint-Germain, ne serait-ce qu'en première mi-temps, a pas été exceptionnelle.
Exactement.
Le but de Clément, il me semble que c'est peut-être la première frappe. Non, il y a la frappe de Herding justement dont on parlait tout à l'heure sur le décalage de Clément qui le lance en profondeur et Herding c'est une bonne frappe. Et c'est juste la deuxième frappe cadrée du PSG, celle de Clément. Puis après il y a plus grand-chose en première mi-temps. Donc c'est vrai que les Parisiens collectivement sur l'ensemble de la première mi-temps ne sont pas exceptionnels. C'est là où je reprocherais aux Lillois de pas avoir réussi à faire quelque chose, parce que Lille aurait dû marquer je pense dans cette première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps ils étaient j'ai pas du tout reconnu l'équipe dont on nous vante souvent les mérites. Mais c'est vrai que Cessegnon a mis un petit peu de temps à l'image du groupe quoi à démarrer.
Non mais c'est pas une mauvaise équipe Lille hein. Franchement ils ont plutôt bien joué, mais bon.
Là, ils se retrouvent quand même.
Relégables.
Ils se retrouvent relégables, c'est ça, c'est ce que je regardais. Et à 2 points de Saint-Etienne, 17e. Et 18e Lille, ça fait avec un seul point.
Non, mais.
19e Auxerre et 20e Grenoble, oui.
Non, en fait, ce qui m'a dérangé sur Rudy Garcia, c'est que sur le banc, t'avais Gervinho, t'avais Obraniak, t'avais Toulou Dembélé. Voilà quoi, c'est on dirait qu'il se donne.
Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi titulariser par exemple un mec comme Aubameyang. Mais je le connaissais parce qu'il évoluait au Milan AC avant avec l'équipe de la Primavera. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un joueur. Quand tu vois un Gervinho sur le banc, j'ai été surpris quoi. Je pensais
bien
que
sûr.
ou même un Obraniak, quoi, un Obraniak sur le côté avec
Obraniak, Hazard. Il a fait la gueule, hein. Obraniak, il a fait la gueule avant, aux séances d'avant-match, il faisait la gueule quand il a su qu'il était pas titulaire. Moi, franchement, si j'aurais été Rudy Garcia ce soir, j'aurais mis Obraniak à gauche, Gervinho à droite, Hazard en 9,5, et tu mets tout le Demelo, et c'est là, ça va déranger le PSG. Là, on dirait qu'il s'est donné le bâton pour se faire taper dessus, quoi.
Et pour, tu l'as dit, hein, je voulais revenir par rapport à la non-titularisation de Gervinho, et la non-titularisation de, enfin la titularisation de Aubameyang, j'ai pas vraiment compris. J'ai pas compris pourquoi Aubameyang, parce que il est bien brave, il sait courir, il... mais voilà quoi.
Il est bon, c'est un bon joueur, mais voilà quoi.
Ouais, pour la réserve peut-être.
Pas ça. Mais c'est vrai que quand t'as sur le banc à côté des gars comme Gervinho, t'aurais rien de meilleur. Là, on peut pas.
Oui, dire. Voilà, surtout. Surtout que t'as Gervinho et t'as Obraniak, c'est vraiment, j'ai pas compris.
Ça fait plusieurs matchs que Gervinho est sur le banc de touche et qu'il rentre 10 minutes par 6 minutes par là.
Il a pas encore commencé de match avec Lille, il me semble.
Ouais.
Non. Non, parce qu'en fait, ils expliquaient, excuse-moi de te couper Arnaud, mais ils expliquaient qu'il avait pas encore de conditions physiques assez nécessaires pour commencer un match. Voilà, tout simplement.
Ouais. 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 Non, et puis sur, on parlait aussi de Tulio Demelo, on comprenait pas pourquoi. Alors Vitek a été préféré, j'ai eu l'explication parce que Vitek a enchaîné 3 buts lors de ses 3 derniers matchs là, il en a mis un en sélection et puis 2 avec Lille. La titularisation de Vitek d'ailleurs qui a pas fait un mauvais match, ça a été un bon joueur devant. Plus que Tulio Demelo, ça c'est explicable, mais c'est vrai que le gros point d'interrogation c'était plus Aubameyang, plus qu'un Gervinho, qu'un Obraniak. Bref. Bon, on finit juste sur le PSG. Alors Erdink, toujours un match pas non plus exceptionnel, mais il a fait le boulot, il a fait plusieurs belles remises, je me rappelle une à Julie de la tête. Il s'est bien démené devant comme à son habitude. Et puis il a fait une bonne frappe, il a créé le danger. Donc un bon match de Erdink et Louis Ndoula aussi qui confirme son début de saison plutôt bon avec un but. T'en penses quoi, Khaled?
De quoi? Excuse-moi, je t'écoutais pas.
De là, comment? de l'attaque du PSG. L'attaque du PSG.
Ah, Louis non, Erdink. Non, mais bon, moi, ce qui est bien avec Erdink, c'est qu'il se démène. Il bouge tout le temps sur le front de l'attaque, à droite, à gauche, dans l'axe. C'est un très 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 bon recrutement. Au début, j'étais un peu sceptique, je voyais les 8,5 millions pour lui. Je me suis dit bon, ok, bon, on va voir. Avant de critiquer, bon, on va regarder. Et ben, apparemment, il fait un très très bon début de saison.
Vas-y. Juste, je voulais te dire, ce qui est bien à Paris, c'est que plus encore que un attaquant qui est meilleur qu'un autre, c'est des combinaisons qui sont possibles au PSG. T'as par exemple donc la combinaison Erdink-Louis Ndoula qui est en train de montrer, prouver que on peut faire confiance. Je pense qu'un Erdink-Ouaro, même si on n'a pas encore vu sur le terrain, ça peut être très très bon. On a vu l'année dernière que Ouaro-Louis Ndoula, ça peut marcher. Ouaro Julie, ça peut marcher également. Donc c'est vrai que les combinaisons pour Antoine Kombouaré sont multiples devant et ça pourrait être un bon atout pour l'attaque parisienne.
Comment il s'appelle Kombouaré, il va avoir un sacré casse-tête, hein. Parce que franchement, tous les combinaisons peuvent fonctionner au PSG, comme tu l'as dit.
Ouaro revient, quoi.
Voilà, en plus Ouaro revient et il faut pas oublier que Louis Ndoula, c'est son deuxième but en 2 matchs. Ça c'est aussi une bonne petite statistique pour lui personnel. On est maintenant à trois joueurs à deux buts. On a Erdink, on a Julie et on a Louis Ndoula maintenant. Et Jallet, pardon. Et Jallet aussi.
Ouais,
donc, quatre joueurs à 2 buts. C'est plutôt pas mal.
Justement, je crois que avoir ces 4 types d'attaquants différents et ces combinaisons, je pense que c'est positif parce que l'année dernière, ils avaient justement que Ouaro et Julie qui marchaient bien. Et là, maintenant, ils ont autre chose qui marche bien aussi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur les derniers matchs qu'on commence à avoir du jeu offensif côté parisien. Bon, aujourd'hui, on a vu parfois ça se faisait, parfois on voyait plus rien. mais on commence à voir quelque chose d'intéressant, ouais. Des bonnes combinaisons en tout cas.
Ouais, ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, on est un petit peu déçu à comment première mi-temps, on revoyait certaines fois le PSG de l'an passé qui gagnait sans faire des coups d'éclat, et puis en deuxième mi-temps, on voyait plus une équipe un peu plus libérée qui enchaînait des bonnes séquences de jeu avec un bon Cessegnon, un Julie qui pouvait faire des bons appels sur le côté. Ça bougeait bien du côté du PSG. Et ça, c'est vraiment encourageant. Ouais, Raled.
Bah moi, je vais juste vous poser une question à toi et à Yann, ou Roméo, s'il veut aussi s'y coller. Pour vous, qui vous mettrez devant, quoi? Erdink, Ouaro, ou Ouaro, bah, Louis Doula,
Je viens avec tout.
Vas-y, Roméo.
Je suis pas comme Boiré, mais il y avait cette solution qui avait été évoquée auparavant avec Flo. D'ailleurs, c'est note pour ceux qui connaissent pas son prénom. Et je tenterais bien une solution en 4-3-3 parce qu'on sait que Erding peut jouer sur un côté et le mettre par exemple sur le côté gauche, ça pourrait être bien, je pense, avec par exemple Julie sur le côté droit et Warren en pointe qui dévierait bien les ballons pour ces deux-là. Et je pense qu'Erding sur un côté, il peut y jouer, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal une solution comme ça en 4-3-3 avec Erding, Ouaro, Julie, et c'est sinon Julie Pape qui retrouverait un rôle de relayeur, son poste qu'il avait au Mans. Moi j'essaierais cette solution.
Moi j'attends de voir personnellement la doublette Ouaro Erding devant. J'attends de voir ce que ça va donner, je pense.
Je plussois totalement Yann sur ce coup, parce que je trouve que le 4-4-2 fonctionne plutôt bien, surtout si un Clément prend des initiatives comme ça et se montre un peu plus devant. Et je trouve que mettre reculer un petit peu Erding ou l'écarter un peu sur un côté serait dommage de le perdre, et puis de laisser un peu Ouaro devant. J'ai peur qu'on retombe dans les travers du PSG l'année dernière qui était de balancer souvent sur Ouaro. Donc c'est vrai qu'il y a une doublette qui est potentiellement intéressante. Je reste sur du potentiel. Et je vais pas dire comme des gros abrutis du forum qu'on peut juger un joueur juste sur le potentiel. Donc on va pas faire d'affirmation, mais je pense quand même que Ouaro Erding vraiment devant, c'est à tenter, quoi, avec à la ligne de 4 comme on a vu aujourd'hui. Très bien, d'accord.
Oui. Mais sinon, juste une dernière chose sur PSG. Les points négatifs, moi c'est que ça, ce qui commence à vraiment m'énerver avec cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu.
On disait qu'Yann, il y a quand même des prémices quand même de quelques bonnes actions. Ouais.
Voilà, il y a quelques étincelles. Mais il n'y a pas de vrai fond de jeu. C'est ça
qui m'énerve. Pas encore.
Mais voilà. Boiré est là depuis 2 mois, hein, n'oublions pas.
Mais on commence à voir des choses, je pense.
Non, mais même avec Le Guen, même avant, Paris, ça a toujours été comme ça.
Oui, non, mais voilà, si on veut peut-être trancher avec l'époque Le Guen où il n'y avait strictement rien, faut peut-être laisser un petit peu de temps à Camboré. Je trouve que c'est plutôt bien ce qu'il fait, il arrive à
3,
faire...
3-0, c'est flatteur, hein.
Oui, non, mais c'est ce qu'on disait, on dit quand même que le score est lourd, mais on est d'accord. Oui, Roméo?
Oui, une petite statistique encore, désolé, je vous saoule, mais c'est pour faire remarquer que Jallet a touché presque autant de ballons que Julie en 40 minutes de moins. Voilà.
Ouais,
intéressant.
Effectivement, oui, Julie qui pourrait pas être remis en cause sur son côté droit, mais bon, on ne sait pas, vu les très bonnes rentrées que fait Jallet. Marvolo, oui.
Ouais, c'était juste par rapport à un héritage entre guillemets de Paul Le Guen. Faut arrêter d'être aussi dur que ça, parce que au final Camboré joue avec le même schéma tactique, il joue quasiment avec les mêmes joueurs, et puis on attribue tous les mérites à Camboré. Non, je suis absolument pas d'accord. C'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est toutes ces idées préconçues qu'on a sur le PSG ou Marseille. Ça vient tout le temps du même journaliste de merde
qui arrive pas à... qui va recommencer.
Ça y est, un coup d'anti-Riolo.
Je veux dire qu'au bout d'un moment, sur Soccer, 99% des avis, c'est les avis de Daniel Riolo, c'est ses arguments. Et pourquoi il n'y a personne qui réfléchit? Je veux dire, est-ce que le PSG a changé de schéma tactique? Non.
De toute façon, Camboré joue en 4-4-2. Il joue toujours en 4-4-2, alors.
Je dis pas que Camboré a copié Paul Le Guen. Je dis juste par rapport à ce qu'il y avait avec Paul Le Guen, parce que Arnaud parlait bien de couper les ponts, ou je sais plus exactement l'expression qu'il a utilisée, et c'est exactement ça. Ils utilisent le même schéma tactique. Dites-moi un joueur, par exemple, qui était titulaire avec Paul Le Guen, que Cambori a mis sur le banc.
Oui, non, mais effectivement.
Ben non. Voilà, au final, c'est exactement la même équipe. Alors après, si on reproche à Paul Le Guen d'avoir très 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 longtemps tergiversé, ok. Si on reproche à Paul Le Guen une communication à la Domenech, ok. Si on lui reproche même d'être un des responsables de la baisse de régime flagrante du PSG l'an passé, ok. Mais il faut arrêter de dire que si le PSG va bien, c'est grâce à Cambori.
Là, ah, je suis t'es d'accord, ah, t'es d'accord.
Non, j'ai pas dit ça, moi.
Le schéma tactique qui rentre en compte. Il y a aussi la mentalité que t'insuffles aux joueurs.
Oui, mais c'est exactement le même PSG, franchement. Regardez jouer. C'est des différences très très minces. Je veux dire,
oui, quoi, mais c'est le début, quoi. C'est pour ça que je, c'est.
C'est non, le début. Tu me dis ça, mais il n'y a pas de raison de penser que ça va. Que le PSG va devenir Arsenal, quoi. Hein. Ça va pas devenir le beau jeu. Ça reste
bah, moi j'aimerais bien, moi. Moi j'aimerais bien.
Bah oui, moi aussi j'aimerais bien que mes équipes aient toujours un jeu flamboyant. Là, on a vu un match où en première mi-temps, on s'est fait chier comme pas possible, et on a vu deux entraîneurs qui ont plus misé sur la puissance physique que sur la technique. D'accord. Ça, de toute façon, ça on le reprochera à personne. Mais bon, il faut être un petit peu moins dur avec Paul Le Guen. Faut lui rendre ce qui est à lui. Et il faut arrêter de faire tout le temps des amalgames comme ça, à dire que voilà, Cambori, il a révolutionné le jeu du PSG. C'est exactement le même jeu. Et d'ailleurs, comme souvent, c'est les joueurs que voulait Paul Le Guen, c'est ceux que récupère Cambori. Donc, après coup, faut pas être trop dur avec lui. Et, wow, moi, ça m'énerve un peu, quoi. C'est, toujours que le même connard choisit cette tête de dieu.
Oh. Doucement, Marvel. Ah si, t'as raison, t'as le droit, il est minuit passé. Bon. En plus, oui, t'as eu un dur week-end.
J'ai eu une passion pendant une demi-heure, j'attendais pas avant minuit.
Il était en pénitence, Marvolo. Là, en plus, il a eu un dur week-end, donc il a le droit de se lâcher. Oui, Roméo, une petite stat encore sur le PSG.
Oui, et oui, j'ai pas fini. C'est juste pour dire que, bon, vous savez que Waro est rentré.
Tous ceux qui annoncent des stats sont des meufs, que t'es obligé de prendre une voix de meuf, Roméo. Parce que dans chaque émission, tu regardes, qui annonce des stats, ce sont des
filles. Enchaîne, Roméo.
Non, c'est Philippe Doucet. Philippe Doucet qui est-ce?
C'est vrai.
Eux, ils sont Philippe Doucet avec du laser, des technologies d'avant-garde.
Et la nous, palette on a de douce.
Et voilà. Et nous, on a Roméo, monsieur Stat. Voilà. Donc, j'ai des statistiques. C'est Oaro a touché 5 ballons de plus qu'Erding avec moitié moins de temps de jeu.
Très bien. Bon.
J'en foutais, je sais.
Non, mais ça prouve que Haro est bien en jambes, justement, et on l'a vu.
En seulement 30 minutes de jeu, il a touché 23 ballons.
D'accord, très bien. Oui, effectivement, j'avais vu que Erding en avait touché une trentaine ou un petit peu moins, donc.
18.
Il a touché 18 ballons?
Oui, 18 ballons.
Ah oui, donc Oaro en a touché plus que lui, d'accord, très bien.
Voilà, si t'écoutais un peu aussi.
Excuse-moi, bref. on va parler juste un petit mot sur Lille. Donc on a dit que c'était, on a fait un petit commentaire sur l'attaque là, un commentaire aussi sur la défense. Alors on m'a tellement vanté les mérites d'un gars comme Rami, que là encore, à chaque fois que je vois Lille, je trouve jamais ce gars exceptionnel. Si une fois à un match contre Marseille où je l'avais vraiment trouvé bon, je trouve jamais ce gars très transcendant. Alors faudrait que, par exemple, Yann, toi t'as vu le match, Rami, comment tu le juges? Est-ce que par exemple, t'aurais préféré un Rami à un Diawara? Ou je poserais peut-être la même question à Marvolo après. Est-ce que tu arrives à vraiment lui donner une valeur à ce joueur-là?
Est-ce que j'aurais préféré Rami à l'OM, c'est ça, à la place de Diawara? Voilà. En tout cas, moi, j'aurais pas mis 12 millions, ou enfin les chiffres annoncés pour lui, j'aurais pas mis, hein, ça c'est sûr. Mais...
Plus de 12 millions.
Ouais.
Parce que l'offre de 12 millions a été refusée.
Ouais, ouais, exact. Ouais. Mais non, Rami, c'est un bon défenseur, un très bon défenseur de Ligue 1. Maintenant, de là à avoir le niveau Ligue des Champions, je pense qu'il doit encore prouver beaucoup de choses. Et, alors, est-ce qu'il va passer le cap? Est-ce qu'il va aller dans un club plus huppé? Sûrement. Mais bon, moi je suis bien content qu'il soit pas venu à Marseille en tout cas.
Mot également. Ouais, Roméo, t'es aussi d'accord avec ça. Mot peut-être sur.
Mais par contre, la venue de Rami ne conditionnait pas celle de Diawara et le contraire non plus, hein, parce que c'est plutôt c'était Diawara est arrivé avant Rami.
C'était plutôt Enzo, quoi, ça que tu voulais
dire. Voilà, c'est ça.
D'accord. Okay. Bref, un mot aussi sur un joueur là. Fab nous en avait souvent parlé l'an dernier en nous disant que c'est un arrière gauche très sous-estimé. Emerson, il a pas fait du tout un bon match ce soir. C'est la déception. Ouais, Arlette, t'es d'accord avec moi, la déception c'est lui.
Ouais, il a été. Ça vient un peu de lui le deuxième but quand Jallet vient pour recentrer de la tête sur Louis Ndoula. C'est un peu de sa faute.
Pas sa balle.
Exactement, il attaque pas la balle et il a été plutôt transparent. Dans l'équipe lilloise, voilà quoi.
Sauf à un moment où il anticipe un appel de balle de je sais plus quel attaquant parisien qui passe dans le dos de la défense lilloise. Il le suit, il a l'intelligence de le suivre parce que s'il suit pas l'attaquant
parisien. Ah c'est Julie je crois que c'est Julie.
Ah oui voilà, effectivement. Ouais, c'est
Julie se retrouve en un contre un et lui il a eu quand même l'intelligence de le suivre.
Sur une passe de Louis Ndoula.
Ouais, plein axe, ouais. Un peu comme leur but à Valenciennes.
C'est vrai.
Toujours bonne mention, on dit souvent pour le milieu, là, 3, Balmont, Cabaye, Mavouba, c'est souvent bon. Ouais. Et là encore, ça a été bon.
Cabaye, très bon, Cabaye.
Ouais. Mavouba sort un petit peu, sort pas, c'est pas vraiment une punition de la part de Rudy Garcia quand il le fait sortir, c'est plus une option tactique quand Mavouba sort, parce que je le trouvais assez bon devant la défense. Et puis voilà, il sort. Mais bon, c'est toujours le milieu. On le dit souvent, c'est un milieu sûr et qui a toujours de bonnes performances. Ouais, Cabaye, des bons coups francs.
Un peu discret,
je trouve. Puis sinon, un mot sur les deux gardes. Oui.
Bon coup franc, enfin cadré, mais pas vraiment bien tiré.
Il est bon sur coup franc. Il est précis, je trouve. Hein.
Il est précis. Ça suffit pas forcément.
Après. Ouais, ouais.
Un petit mot juste sur les deux gardiens de chaque équipe, on en a pas dit. Coupet qui continue là sur
tranquille.
Ouais.
Tranquille, rassurant.
On l'avait un petit peu taillé la semaine dernière là, toi Raled, par rapport au fait que soit pris deux pions là à Valenciennes par peut-être un petit peu trop de nonchalance. Là,
non, c'est surtout sur le but de Tiené que j'ai pas aimé. C'est sur le but de Tiené, mais bon après sur le but de Mater, il peut rien faire.
Ouais.
C'est assez sûr. Mais ce que je lui avais reproché, c'était le but de Tiené qui se la joue un peu trop tranquille sur le coup franc et Tiené lui a mis au fond et là aujourd'hui il a fait le métier. Il a été rassurant sur tous les ballons. Voilà quoi. C'est tout ce qu'on demande à un gardien de but.
Par rapport à Butel qui lui a été décevant du côté lillois.
Butel avant sa bourde, il a plutôt bien défendu ses buts. Ouais. Après sur le but de Clément, il peut rien faire.
Non,
sur le but de Louis Ndoula, il a beau portant Louis Ndoula, il peut rien faire. Bon après sur le troisième, tout est pour lui quoi, le but est pour lui quoi. Ça faut dire les choses comme elles sont. Hein.
Bon.
Sinon, bon match de Butel.
Oui, quelqu'un voulait.
Non, c'est.
Ouais, il y a un but.
Non, c'est une info. Donc on parlait de la blessure de Koné tout à l'heure et ça vient de sortir. Merci à Dan qui nous donne l'info. Et donc Koné s'est blessé au ligament interne du genou droit. C'est ce qu'a indiqué Didier Deschamps. Comment ?
C'est pas bon signe ça.
C'est plusieurs semaines d'indisponibilité. Plusieurs semaines. On a un étudiant.
Tu peux dire deux mois.
Qui fait médecine. C'est Habib, tu confirmes que ligament interne du genou droit c'est plusieurs semaines?
Ça dépend. S'il est arraché, c'est juste une inflammation, si. Moi tu me dis comme ça, ligament interne du genou droit.
C'est une entorse des ligaments internes.
Après, il faut voir s'il y a des complications ou pas, mais voilà. Sinon c'est un mois et demi plus ou moins.
D'accord, très bien.
Donc confirmé, ça sera Ben Arfa normalement au prochain match.
Très bien messieurs, donc pour rappel, là on vient de finir sur le match du PSG. PSG qui s'est imposé 3-0 au Parc cet après-midi face au LOSC, ce qui permet au Paris Saint-Germain de prendre la deuxième place du classement à égalité de points avec Bordeaux et Lyon. On passe. Oui. Oui, Roméo.
Comment tu as pu oublier le match de la journée?
Bah non, mais j'allais dire
ah,
on passe.
Quel Christophe match j'allais.
Ça va, ça.
Match.
Voilà, exactement. Un match exceptionnel qui s'est débloqué à la 87e sur un but de Samassa. Alors, vous imaginez le truc.
Deux buts en 4.
Ouais. Et effectivement, comme vous avez remarqué Roméo, il commence à marquer du pied. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est intentionnel.
Bah, c'est vrai.
Alors que lui,
à Martin, plutôt... il avait marqué de la tête.
Ouais, voilà, lui qui, les seules qualités qu'on lui trouvait, c'était plutôt de la tête. Et il arrive à se trouver du pied. Alors là, il a mis un but aux 6 mètres, une frappe. En même temps, elle était pas très compliquée à mettre. Donc, ouais, non, ouais. Bah, rien à dire sur ce match-là. Je pense que les Toulousains si. Doivent être quand même bien déçus. Oui?
Bah, Valenciennes a aligné l'arbre de Noël. Le véritable, hein, 4-3-2-1, un bel arbre de Noël, quoi, beau pour décorer, mais bon, ça a marché à Toulouse. Et à noter que bah, Toulouse continue avec Machado en ailier, quoi. Je suis pas persuadé que ça marche. Oui, c'est très simple. Non, mais donc avec Machado sur l'aile gauche et Braten sur l'aile droite. Et bah moi je vois plutôt Machado comme un relayeur ou peut-être en tant que 10 ou
bah mais... vaudrait mieux en tant que 10 parce que relayeur t'as un mec comme Capou qui
oui,
est un
non,
très
mais
bon jeune
et Dido pour suppléer Capou et Sissoko.
Ah oui, d'accord, à faire un milieu à 3, d'accord, comme ça.
Oui, voilà, mais pas en ailier gauche, je comprends pas ce truc. Et bah d'ailleurs, bah Machado, il a touché quand même beaucoup de ballons, il a touché énormément de ballons, mais voilà, quoi, c'est pas, à mon avis, c'est pas le mec qui doit jouer à ce poste-là, quoi.
Ouais, donc bah Toulouse perd son deuxième match consécutif à domicile sur le score de 1-0 après sa défaite en Europa League face à Trabzonspor. Et donc les joueurs de Casanova restent à la troisième place avec 4 petits points. Et les Valenciennois, eux, empochent leur premier point et donc montent au 16e rang. Ça leur permet de sortir de la zone rouge et d'être égalité avec Saint-Etienne avec 3 points.
Je veux souligner quelque chose quand même, c'est que Mamadou Samassa a plus marqué que Gignac cette année.
Ouais.
Comme voilà, quoi, alors tu... Comment?
Comme quoi tout peut arriver.
Voilà, et en plus Gignac a joué 4 matchs et en minutes c'est 360. Alors que Mamadou Samassa, il a joué, je sais pas s'il a joué les 4 matchs, mais il a joué les 4 matchs, mais il a joué.
Ah bah, là il a fait 3 minutes. Il
80
est rentré...
minutes ou moins.
Voilà. Ouais. Ouais, bah il est rentré là et 3 minutes après il marquait. Il est rentré à la 85e.
Confirmation de la Gignac dépendance de Toulouse. Gignac qui marque pas, Toulouse qui gagne pas.
C'est vrai. En même temps, c'est pas Xavier Pentecôte qui va faire le travail.
Ou Nicolas Dieuze. Même pas s'il est encore là, mais bon.
Ou Faudemont Sarré.
Lui sur le banc, lui.
Bon. Eh ben messieurs, je vous remercie pour cette belle page Ligue 1. On aura passé à peu près une heure. On aura passé à peu près une heure sur ce championnat français et ses 3 matchs de la journée. Je vous rappelle l'information du soir, ça reste le match nul 0-0 des Olympiens marseillais face aux Girondins de Bordeaux à domicile. Bordeaux qui reprend sa place de leader avec 10 points devant le PSG et Lyon. Lille, Auxerre et Grenoble ferment la marche aux 18, 19 et 20e place de cette Ligue 1. Un petit mot maintenant, même un bon petit mot, de PL, voilà, pardon, de Première Ligue, avec la Première Ligue, on a perdu Roméo apparemment, bref, je vais vous
rappeler... Vu. Oui. Moi j'ai vu Portsmouth Manchester City si tu veux.
Attends, juste OK parfait, bah vous voyez comment on est super complet sur Génération Soccer.
Exactement.
On va vous rappeler juste les scores de la journée en Première Ligue. Il y avait 3 matchs qui se jouaient aujourd'hui. Aston Villa s'est imposé à domicile 2-0 face à Fulham. Everton s'est imposé 2-1 face à Wigan à domicile également, et Portsmouth s'est incliné à domicile 0 face à Manchester City d'Adebayor. Et un petit résumé de la part de Raled, ton petit commentaire sur le match.
Bon, bah, ça n'a pas été un gros match. Franchement, moi j'ai pu regarder un petit peu. Bon, je surfais en même temps, j'écoutais les commentaires en regardant le match. Bon, ça a été. Ça a été une victoire assez assez tranquille. Enfin, comment dire, tranquille. Bah, on va dire que Manchester City a fait le minimum, quoi. Ils ont gagné 1-0 sur un but d'Adebayor sur corner. Portsmouth n'a pas vraiment poussé, ont essayé de pousser comme ils pouvaient, mais quand t'as Pickion devant, c'est très très dur, mais surtout c'est l'assurance tout risque pour la défense de Manchester City avec Kolo Touré et je sais plus qui en défense. Et c'est une victoire tranquille de City qui reste au sommet du championnat d'Angleterre. Voilà.
Oui. Et comme tu l'as dit, étrangement, c'est la défense qui a été une des rares satisfactions match de Manchester. Et parce qu'au niveau de l'attaque, il y a du potentiel offensif, mais c'est très c'est très brouillon. Ça marche pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires, mais c'est brouillon et il y a pas vraiment de construction, ça pêche un peu
Si tu veux, Roméo, ça pêche, si tu veux, c'est parce que, bon, il y a des joueurs qui se connaissent pas encore, à des bailleurs.
Oui, voilà,
le jour où la mayonnaise apprend, bien sûr.
Sur un côté, je suis pas convaincu, parce que là, on a vu qu'il a pas le même rendement, il avait pas son caractère de battant qu'on lui connaissait, je sais pas si t'as remarqué ça, mais il se battait pas vraiment sur tous les ballons, il marchait un peu, et je suis pas persuadé qu'à gauche, dans un 4-3-3
comme ça. C'est dans l'axe, hein. Ça aurait été mieux de mettre Robinho à sa place. Robinho, il est blessé en ce moment, non?
Je ne sais pas. Non, je crois que Monsieur Hughes, qui est l'entraîneur de Manchester City, lui a préféré Tevez. Voilà.
Ouais, c'est ça. Il était sur le banc, je confirme. Et Robinho n'est pas rentré.
Et en plus, j'ai vu une information comme quoi Guardiola voudrait tenter Robinho à la dernière journée du mercato pour le ramener au Barça. Peut-être que je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas j'ai pu voir cette information sur internet.
Ouais, mais ça m'étonnerait parce que Manchester City a refusé 40 millions, donc je vois pas le Barça monter plus que ça.
D'accord, très bien. Mais c'est vrai que ça fait rêver quand tu vois le banc de Manchester City, tu vois De Jong qui est rentré. À la fin qu'un mec comme ça. De Jong, t'as Petrov sur le banc, mecs vraiment impressionnants au milieu du terrain.
Surtout Petrov, il avait fait un très très bon match contre le Barça lors du trophée Gamper. Je trouve assez bizarre qu'il l'ait pas fait titulariser sur le couloir gauche. Il y a beaucoup de solutions offensives pour City, mais pour l'instant ça marche. Mark Hughes, pour l'instant il a tous les voyants sont au vert. Il y a 3 matchs, 3 victoires. Trois buts d'Adebayor. C'est pour l'instant on peut rien lui dire, on peut rien lui reprocher, mais le jour où ça va commencer à se gâter, là les critiques vont commencer à tomber et on va commencer à faire les comptes. Voilà.
C'est vrai qu'Adebayor commence à bien planter. En face, Pickion, ça vous rappelle des bons souvenirs ou pas? Honnêtement. Franchement, sans se moquer,
il a pas été dégueulasse, mais il a pas été flamboyé non plus, mais bon, franchement, s'il travaille dur, je pense qu'il peut réussir à Portsmouth, mais face à des petites équipes, pas contre Manchester, il plantera pas des doublés contre Manchester ou contre Chelsea, ça faudra pas rêver. Voilà, quoi, contre des Sunderland, contre des Middlesbrough, si tu veux, mais contre les grosses défenses, faudra oublier, quoi.
Ouais. Et voilà. à noter la blessure de Richard qui est sorti sur blessure à la 61e, remplacé Zabaleta.
Zabaleta, d'accord.
On n'a pas d'autres infos là-dessus, je sais pas si des auditeurs ou Mika Richards, je sais pas.
On va essayer de trouver.
Voilà, on va essayer de trouver si.
la gravité de sa blessure. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour sur ce petit match, juste pour dire
il est touché, il a été touché au genou, en fait. Et il a été touché au genou, mais bon, on n'en sait pas trop pour l'instant.
Généralement, si on trouve pas d'informations sur sa blessure sur Internet, c'est que ça doit pas être très très grave.
Si, justement, il a été blessé au genou. Mais comme je te dis, ça n'a pas été repris.
Oui, c'est ça que veut dire.
On ne sait pas encore la gravité.
On a compris, Roméo. Bref. Juste pour vous dire, donc Portsmouth est pour l'instant dernier de la première ligue avec 0 points, contrairement à Manchester City, donc qui continue à grappiller les points et qui se place quatrième, co-ex-aequo avec l'autre Manchester United, qui pointe aussi à la troisième place, donc avec 9 points. Un bon petit match aussi également entre Aston Villa et Fulham. Je sais pas si t'as un petit compte rendu à nous faire, Roméo, ou
est-ce que tu avais... je suis pas Superman non plus, hein, je peux pas voir tous les matchs. Non. Mais Aston Villa a gagné 2-0 avec un but de Pansil contre son camp et de Agbon Lahore. Mais tu vois, je peux pas te dire autre chose sans ce but, si ce n'est que
Aston Villa est 8e apparemment, voilà. avec six points
Habib Bey qui a débuté, voilà.
Effectivement, ouais. L'ancien Marseillais et leur adversaire d'un soir, Fulham, est 15e avec 3 petits points. L'autre et le dernier match qu'il y avait chez nos amis anglais aujourd'hui, c'était Everton contre Wigan, exactement. Louisa a marqué.
Deuxième but de cette saison.
Donc c'est bien. Et mine de rien, Everton qui a réussi enfin à marquer ses 3 premiers points, donc qui sort de la zone rouge et qui se classe 15e égalité donc avec Fulham et Wigan, et leur adversaire d'un soir, ils se tiennent en 3 points tous. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la journée qui s'est passée en Allemagne avant de finir sur la Serie A. Je vais juste rappeler les résultats espagnols. On vous rappelle que Marvolo ne peut pas assurer son suivi espagnol ce soir à cause de faits exceptionnels, donc on ne lui en veut pas. Mais par contre, Marvolo, tu me promets de pas m'incendier si j'ai pas le bon accent quand je prononce les noms de clubs. Donc Almeria,
Atlético Madrid.
C'était bien, t'as travaillé pendant l'été, Khaled.
Contre Valladolid, Valencia a gagné 2-0 au Mestalla face au Sevilla. Bilbao s'est imposé également à domicile face à l'Espagnol Barcelone. Mallorca s'est imposé 2-0 face à Xerez. Oui, alors là, par contre, je suis sûr que Marvolo pourra me reprendre Xerez sur la...
Xerez qui a fini le match à 2. À 2. À 10, pardon. À 9.
Ouf. T'as du mal, toi.
Marvolo, on dit comment? On dit rêve.
Xerez. Ben, c'est le ville de Jerez de la Frontera, mais moi, je ne sais pas trop s'il faut dire Xerez, Jerez, ou alors moi je dis Jerez.
Et... Ouais, moi je dis Jerez.
De toute façon, tout le monde me dira, parce que comme la ville s'appelle comme ça, on ne va pas sortir un X.
Ok, très bien. Merci pour cette petite minute de culture à façon Marvolo. Osasuna a fait un but partout face à Villarreal, un bon résultat pour le club de Pamplune.
C'est normal, Blasil est parti, donc maintenant il peut se mettre à gagner.
Ouais. Blasil, il porte vraiment dans son cœur, comme vous avez pu le constater, le Tchèque, Marvolo. Retafe allait gagner 4-1 face à Santander à l'extérieur, donc sur le terrain de Santander. Très belle
triplé de Soldado, à noter.
Triplé de Soldado, donc, qui arrive du Real Madrid.
Il est là. Ça fait longtemps.
Oui, non mais.
Il a été formé à la Candela du Real. Voilà. Quelque temps qu'il a
formé au Real Madrid, pardon, excusez-moi.
Le résultat de la journée aussi.
Voilà le résultat de la journée, enfin la grosse surprise. Marvolo, t'es d'accord avec nous, l'Atlético qui se fait, qui prend une chair, une grosse claque à Malaga, 3-0 ouais. Donc une défaite qui fait très très mal au coéquipier Diego Forlán, donc parce que maintenant l'Atlético Madrid n'a toujours pas marqué un seul petit point dans ce championnat. On pensait vraiment pas voir dès la première journée l'Atlético se prendre une claque comme ça. Donc on te posera un petit peu la question, Marvolo, la semaine prochaine.
Franchement, c'est pas une surprise, hein. L'Atlético, ils t'ont fait aimer les surprises en Liga. Donc ils sont capables de mettre 4-0 Real et de perdre la journée d'après 4-0 contre Santander. Donc franchement, c'est pas spécialement.
Barça aussi.
Bah, ils font partie des rares équipes à avoir battu le Barça à la Loyale, donc c'est même pas comme ils ont battu comme Numancia qui a pris le Barça dès la première journée ou lors des derniers jeux. Non, eux ils ont vraiment battu à la Loyale. Et puis après.
Bah, l'Espagnol Barcelone les avait battus à la Loyale aussi, il me semble.
Ouais, non, mais comme c'est un derby, je veux dire.
Ouais.
Le derby c'est toujours un peu fou, donc. C'était en plein l'époque des Noche Boys. Là, il y avait la Ligue des Champions qui revenait. L'Atlético, ils ont battu parce qu'ils étaient. Ils sont capables de monter un très haut niveau, mais ils descendent aussi très bas.
Ok. Très bien. Bon. Donc, voilà pour ces petits résultats. Les trois premiers, c'est difficile à dire ça, puisque après une journée, ceux qui ont marqué 3 points, on va dire, au cours de cette journée-là, je rappelle, c'est Retafe, Malaga, Valencia, Mallorca, le Real Madrid, Bilbao et Zaragoza qui ont marqué tous 3 points lors de cette journée. Ceux qui ferment la marche, Racing, Santander et Atlético Madrid. Un mot donc de Bundesliga avec Romeo.
Oui. Et demain, Barcelone, Sporting de Gijón.
C'est vrai que match décalé que Marvolo suivra sûrement s'il est rétabli. Et effectivement aussi Raled. Donc Bundesliga, tu peux nous rappeler les deux scores de la journée, Roméo, oui, s'il te plaît.
Oui, sans aucun problème. Donc le Hertha Berlin s'est fait battre à domicile par le Werder de Brême. Donc le Hertha Berlin qui pointe toujours en 16e et avant-dernière place du classement, donc relégable juste devant Nuremberg et Cologne. Et le Werder de Brême se replace en 3e position. L'autre match c'était Hambourg, le HSV qui recevait Cologne, pour ceux qui sont pas germanophiles. donc voilà le HSV qui a gagné facilement contre Cologne, 3-1 avec un doublé de Guerrero et un but de Trochowski. Et Hambourg qui est premier avec à égalité de points avec le Bayer Leverkusen et avec une meilleure différence de but. Voilà Hambourg qui s'affirme comme l'outsider de cette saison à venir avec un bon recrutement et
ils peuvent vraiment faire quelque chose cette année, hein.
Oui.
D'ailleurs potentiel vainqueur aussi également de l'Europa League, ça peut vraiment être un gros client sur tous les fronts. C'est Hambourg, cet HSV. Donc passons maintenant.
Non, Khaled.
Ouais, vite fait, je voudrais donner deux petits mots sur le match Bayern-Wolfsburg. Franchement, d'hier. Franchement, la prestation de Robben a été magnifique pour son premier match. Franchement, doublé, deux passes décisives de Ribéry, c'est une excellente recrue que Bayern a pris.
T'es pas étonné, Marvolo, je suppose.
Moi, je suis pas étonné, hein. Moi aussi, Marvolo et moi, je pense qu'on n'est pas étonné que Robben a été jeté comme une vieille chaussette, comme Schneider, comme on va en parler tout à l'heure pour l'Italie. Ouais. Voilà, quoi, ça prouve la valeur du joueur. Il vient direct doubler contre Wolfsburg, le tenant du titre en Bundesliga. Voilà, quoi, mon petit coup de cœur germanique.
Ouais. Oui, vas-y, finis Roméo.
Non, je laisse Habib, je voudrais parler de Wolfsburg après.
Ok. Non, bah juste Marvolo, je suppose que ça t'étonne pas, puisque souvent tu nous parlais l'année dernière avec ta collègue espagnole des très bons matchs de Robben, et puis là il poursuit sur sa lancée, quoi.
Ah, c'est ça, il est capable de violer n'importe quelle équipe s'il est un temps soit peu motivé, puis ça ne surprend pas. Après, outre l'entrée de Robben, faut pas oublier que Ribéry aussi est entré, que les deux se sont très bien entendus.
Ah ouais.
Donc ça a joué aussi énormément l'entrée de Ribéry, puis faut voir qu'est-ce qui se trame derrière ce transfert-là, parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait c'est juste c'est une sorte d'avance que fait le Real Madrid et que demain ils vont récupérer Ribéry.
Oui, on en parle de plus en plus.
Surtout quand on sait que Van Gaal, par exemple, a demandé à Ribéry de commencer à jouer dans l'axe en meneur de jeu, qui est un poste où il n'a pas jamais été spécialement brillant. Le fait d'avoir une hypothèse d'une offre de 40 millions plus Van der Vaart, qui lui pour le coup est un vrai numéro, enfin pas un vrai numéro 10, plutôt un 9,5,
ouais.
Et ben ça va dans ce sens là donc on parle de 40 millions plus Van der Vaart.
T'y crois toi ou tu...
Moyennement.
D'accord.
C'est possible.
Je pense que c'est plus peut-être plutôt que comment on va dire ça, plutôt qu'un transfert dès demain, peut-être une sorte d'arrangement pour l'an prochain. Donc,
ouais, voilà.
Une avance dans l'avenir. Ok, très bien. Oui, Roméo, tu voulais continuer sur la prestation de Wolfsburg, le champion en titre.
Enfin, pas forcément par rapport à la prestation. Enfin, comment t'as trouvé, comment vous avez trouvé Wolfsburg, enfin, toi, Khaled, pardon. Comment t'as trouvé
Wolfsburg? Bon, moi, j'ai pas vu le match. J'ai vu les buts, si tu veux. Non, mais bon, franchement, j'ai vu à la peine l'italien Barzali en défense. Voilà, sur les deux buts, il est à la ramasse complète. Après, bon, je pense que le score reflète la prestation assez faible de Wolfsburg, quoi. Et je pense qu'ils ont été magnifiques l'année dernière. Et je pense que ça va être dur de rééditer leur saison magnifique de la saison
dernière. Surtout avec un entraîneur pareil. Petite pique, parce que Armin V était l'entraîneur de Stuttgart avant que Marcus Babbel arrive, et donc c'était catastrophique, quoi.
C'était pas Félix Magath l'année dernière?
Non, c'était Armin V. Non, l'entraîneur de Stuttgart c'était Armin V. Avant que Marcus Babbel le remplace, et c'était catastrophique.
D'accord, ok. Et Félix Magath, il est parti où?
À Schalke 04.
Ah, d'accord, ok.
Schalke nun vier.
Schalke 04 qui a peut-être récupéré Rotten aussi.
Effectivement.
Oui, c'est proche, là, selon
une info exclusive qu'on a entendue dans Flash de Génération Soccer.
Voilà. Ouais. Le premier Flash de l'histoire de Génération Soccer.
Très bien, messieurs, passons maintenant à la Serie A. Donc on va essayer de débattre un petit peu plus là sur la Serie A que les autres championnats qu'on a fait.
Le gros match.
Le viol. Et évidemment hier, vous avez tous entendu le résultat, le derby milanais qui s'est soldé sur le score lourd de 4-0.
Combien Arnaud?
Bari, en début d'après-midi, plutôt dans l'après-midi, avait fait match nul à domicile au San Nicola face à Bologne. Aujourd'hui, la Roma recevait la Juve de Del Piero et surtout de Diego. Ouais. Et les Juventini se sont imposés 3-1, doublé donc du Brésilien Diego, but de Felipe Melo contre un but de Daniele De Rossi pour les Romanisti.
Magnifique.
Très très beau but, une très belle frappe, ouais. On y reviendra. Je rappelle juste les scores de la journée de Serie A donc qui se jouait ce soir, les principaux matchs d'habitude. Vous savez qu'en Italie les matchs se jouent à 15h le dimanche, mais en compte tenu de la chaleur atroce qu'il y a en ce moment, cette fin de mois d'août en Italie, ils ont choisi la Lega de faire jouer les deux premières journées à 21h pour faire moins peiner les joueurs face à la chaleur. Donc ce soir là,
c'est une première ça, Arnaud.
Exactement, mais il y a eu beaucoup de premières cette année en Serie A. On y reviendra justement avec l'histoire du tirage et du calendrier qui fait qu'on a un derby au bout de la deuxième journée. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Je vous sens très impatient, là, c'est normal, c'est l'Italie qui fait ça, ça vous monte un peu à la tête.
C'est sûr.
La Sampdoria, donc, s'est imposée à domicile, très belle victoire de la Samp, 3-1 avec un but de Cassano, notamment, et un autre de Pazzini face à l'Udinese de Di Natale, qui avait réduit le score. Cassano, toujours pas appelé par Lippi, qui a dévoilé sa sélection en vue des matchs de l'Italie, qui comptent pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2010 sud-africaine. Toujours pas de Cassano qui fait pourtant toujours plus d'exploits, mais bon, bref, ce n'est pas le débat de ce soir. Le Genoa qui s'est imposé à Bergame face à l'Atalanta grâce à un but de son défenseur Moretti qui vient de Valencia. Siena s'est imposé 3-1 à Cagliari. Le Chievo Verona a été défait sur son terrain 2-1 par la Lazio et grâce à un doublé de Julio Cruz, l'ancien joueur et l'ancien pensionnaire de l'Inter. Jovetic et la Fiorentina sont venus à bout du Palermo de Zenga sur le score de 1-0. Justement, but du
Jovetic. Un joueur à suivre.
Et le Napoli a gagné 3-1 à domicile face à Livorno, et Parma exactement aussi a gagné 2-1 face à Catania. Donc on va revenir sur toutes ces rencontres. Tout d'abord, évidemment, un petit tour du derby, parce que Bari-Bologne, on va pas en parler parce que ça a été un match donc 0-0 et il y a pas grand chose à dire à part les retrouvailles du public de Bari avec la Serie A. Ça faisait 9 ans qu'ils attendaient ça, ils l'ont enfin. Donc le derby 4-0, je sais que ici tout le monde l'a vu dans cette émission. Donc messieurs, moi j'ai eu un avis assez, j'ai essayé d'avoir un avis assez impartial sur la question. Je reconnais plus, je sais que Marvolo est très dur avec les Rossoneri, mais je reconnais encore plus
un peu
voilà.
C'est des chats.
Mais je reconnais plus une belle victoire de l'Inter de Milan, si vous voyez ce que je veux
dire. Belle victoire, tu veux dire que c'était une piñata, ouais.
Voilà.
Non, mais c'est une histoire de truc, et là je peux le dire maintenant qu'il est minuit, tu reviens, t'as du sperme qui coule du cul, là. Tu sors sortir comme une dinde de Noël, là. Faut arrêter.
Marvolo, s'il te plaît.
Calme-toi.
Donc, oui, non, je voulais dire que je reconnaissais plus les mérites de l'Inter qui avait livré un gros match.
Oui.
Oui.
Pas été bon, je
prête. Allô Arnaud, t'entends plus.
Ah bon?
Oui.
Ah c'est bon.
Rapproche-toi de ton micro.
Excusez-moi. Donc oui, je disais que je préférais reconnaître les qualités hier de l'Inter aux défaillances du Milan et plus s'appuyer là-dessus que dire que c'était vraiment un non-match des Rossoneri, même si effectivement.
Ah non, c'est pas un non-match, ils sont juste nuls. Moi je dis pas que c'était un non-match. Ronaldinho numéro 10, tu vois, c'est bon, c'est suffisant pour moi.
Non mais évidemment.
On est toujours le plus égoïste du monde, tu le mets en numéro 10, donc déjà ça commence bien.
Vas-y, allez.
Leonardo entraîneur, bravo.
non mais moi franchement j'ai pu voir le match et franchement je me suis régalé de la première jusqu'à la dernière minute. Mais surtout c'est que bon, l'Inter a mis du temps à rentrer dans le match et ça a profité aux Milanais après un super débordement de Flamini sur le côté qui a bien débordé Maicon. Après, comme tu as dit, Habib, le but magnifique de Mota a changé le match et aussi l'expulsion de comment il s'appelle, de Gattuso. Franchement, abruti lui.
C'est la balle. Il a 30 ans, il se comporte toujours comme un gamin de 10 ans.
Ah ouais. Non mais ça c'est limite.
On dirait Bailka.
Non mais c'est une faute professionnelle, faut le sanctionner. Normalement, Berlusconi devrait le sanctionner. Mais bref.
On devrait lui décoter un rendez-vous avec toi pour sanctionner.
N'importe quoi. Non mais bon, bref. Non mais bon, voilà quoi. C'est Milan avait bien débuté le match. L'Inter n'était pas complètement rentré dans le match, mais le but de Mota a complètement changé le match et
comme je. Ouais, vas-y, ouais. Finir, Alain, fini.
Non mais bon, après l'expulsion de comment il s'appelle, de, mais surtout le penalty, il est grotesque le penalty sur Samuel Eto'o, il est grotesque.
Ah bah, il doit se prendre un rouge là d'ailleurs, Gattuso, normalement.
C'est un rouge là. Ça, ah, c'est oui. Un rouge.
L'arbitre est déjà clément et il trouve encore le moyen de cisailler après Schneider. Et
surtout qu'il allait sortir.
Il allait sortir. Oui,
hein, ouais. Il allait sortir après l'action.
Ouais.
Et vous vous rendez compte qu'on a donné le capitaine à un joueur comme ça. Ce gars-là succède à Maldini. C'est...
Non,
ça fait
mais
peur,
il a trop de fougue, il a trop de... Je sais pas ce qu'il a, il a trop de fougue, trop de motivation.
Mais arrête avec trop de fougue, c'est un hamar, comme on dit chez nous.
Oui, mais il a pas de sang-froid.
Là où ça sent les dattes et le sable fin. C'est un hamar, c'est un âne. C'est un âne.
Oui, mais Habib,
il a pas de cerveau.
Mais le problème, c'est qu'il a pas de sang-froid. Il est trop généreux, Gattuso.
Il a même pas de cerveau, c'est pas question de sang-froid ou pas. Au bout de 10 ans, ça fait 10-12 ans qu'il est pro. Putain, mais au bout d'un moment, t'arrêtes d'être aussi.
Ah ouais.
Bah, c'est pas possible. Et puis quand t'es capitaine du Milan ou vice-capitaine, je sais pas exactement son statut actuellement.
Mais bah normalement, ça balance entre lui et Ambrosini.
Non, mais Ambrosini est numéro 1, c'est toujours le capitaine. Mais...
Bah normalement, oui, mais...
Ah, mais il joue jamais Ambrosini, donc...
Bah ouais. C'est ce qui est d'ailleurs hallucinant, puisque c'est le milieu de terrain le plus régulier depuis 2 saisons ou 3 saisons c'est à Milan. Ambrosini qui est très peu connu par rapport au Pirlo et Gattuso, qui est moins médiatisé et pourtant qui est un super super joueur. Et oui, je voulais juste revenir 2 minutes là sur ce que disait tout à l'heure Khaled, qui est très intéressant. C'est le but de Mota qui a énormément changé la donne. Bon, parce que Milan a fait une entame de
contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu, ils ont
pas
marqué.
Vraiment contre le cours du jeu,
pas mais vraiment, bien. Mais presque.
Ouais, voilà. Milan était pas encore trop mal donc dans ses premières 20 minutes. Ouais. Et ce but là.
Magnifique. Hein. Dans la construction. Mmh. Allô, Arnaud.
Oui, tout en une touche de base, c'était vraiment
superbe. Oui, une action superbe, là, ouais. Et en fait, les joueurs dont on avait besoin à ce moment-là ne sont plus à leur niveau. Donc là, on avait besoin d'un Pirlo pour pouvoir donner des ballons au pauvre Pato qui a été le seul joueur à essayer de...
C'est le seul.
Voilà, de faire quelque chose hier. On avait besoin d'un Pirlo, il n'a rien fait, il a été transparent. On avait besoin d'un Ronaldinho pour donner, il n'a rien fait. Et donc c'est là où on voit qu'à partir de ce but-là, on pouvait plus rien faire puisque les joueurs dont on avait besoin sont à un niveau, je sais pas s'ils retrouveront un jour leur niveau, leur grand
Ronaldinho,
niveau.
Ronaldinho, non. Ronaldinho,
lent, Pirlo, j'en doute, hein, parce que Pirlo, ça commence vraiment à être de plus en plus difficile. Et voilà, je suis comment.
Moi, Arnaud, si tu veux, il y a un truc qui m'a grave dérangé, c'est la non-titularisation de Seedorf. C'est ça qui m'a. Moi, j'aurais préféré Seedorf que.
Ils sont de plus en plus jeunes et c'est mis en vos joueurs là. Hein.
Bref.
La compo du Milan. T'as envie de te suicider. Storari, Jankulovski, Thiago Silva, Nesta Zambrota. Déjà là, moyenne d'âge, 82 ans. tu peux rappeler Pili et Mazzini, hein, ils font même pas tâche. Pirlo, il est cramé dans sa tête, il a 39 ans. Gattuso, il a 12 ans d'âge mental. Ronaldinho. Ouais. Bon, Ronaldinho. C'est une bite sur patte, il pense qu'avec sa bite. Et puis devant,
Habib. Les deux seuls joueurs du Milan qui sortent du lot, c'était Pato et Seedorf en deuxième mi-temps qui a essayé de.
Même Pato, il a 20 ans. Je sais même pas s'il a 20, il a déjà.
Il non, a 19. Fait... Il a 19.
Ouais, il a même pas encore 20 ans.
Mais vous vous rendez compte la pression qu'on met à ce gamin? Il a 19 ans et on est là en train de faire. Tu vas.
Et même pas sélectionné pour l'équipe du Brésil. Hein.
Ah, il joue de temps en temps, mais c'est pas la question. Le mec, il a 19 ans, mais tu te contrôles un peu, tu prends pas un môme, tu veux pas le griller comme ça. Et puis le Milan, de toute façon, le Milan c'est à l'image de son patron, hein, le magique Berlusconi, hein, connerie sur connerie. Ah non, mais ça va être une belle saison pour le Milan. Hein.
Ah là, ça risque d'être très très dur, tu l'as dit, Marvolo. Et effectivement, Berlusconi qui a déclaré par exemple que Ronaldinho doit être le meneur de jeu de l'équipe. Alors j'espère que Leonardo va changer l'attitude. Alors Leonardo, on peut en parler effectivement. Là encore, on a vu parfois des erreurs de sa part de faire absolument confiance à Gattuso, alors que Gattuso, en dehors encore du fait qu'il soit totalement abruti de cette prise de carton jaune, on a vu un Gattuso cramé, ouais. Mais à plus de 30 minutes de jeu, il s'est blessé. Oui, mais même, il a été vraiment, d'ailleurs c'est pour ça, on a longtemps hésité à mettre Ambrosini, et moi je pensais qu'il fallait faire jouer Ambrosini. Pareil devant, Borriello, il fallait pas le faire jouer, je suis désolé.
Il fallait mettre Untola.
Untola ou Inzaghi, quoi, Inzaghi, ces matchs-là, il en raffole, quoi.
La baisse de niveau du Milan.
Ouais, bah oui. Bah oui, oui, Habib, de toute façon, Habib.
Du Untola ou du Inzaghi.
Oui, mais Habib, Milan ne va rien jouer cette saison, franchement.
Inzaghi, hier, il préparait l'anniversaire de son petit-fils. Qu'est-ce qu'on le fait jouer? Et au bout d'un moment, faut arrêter. C'est ça le problème du Milan.
Si, si, Marolo.
Ils ont plus de joueurs. Ils ont plus de joueurs. C'est bouillie, c'est bouillie.
Non, non, Marolo, tu peux pas dire ça. L'année dernière, quand Inzaghi, je te dis pas qu'il tient sur une saison, mais Inzaghi, par exemple, l'année dernière, on commence à le faire jouer à partir du mois de février, et il a claqué but sur but. Il a fini à 13 ou 4 buts.
Inzaghi. Ouais. Et combien lors des gros matchs?
Mais d'accord, mais Marolo, mais. On essaye de faire avec ce que le Milan a pour l'instant, donc pas énorme. Et je trouvais que par exemple,
avec ce Milan a, moi je te demande un truc alors. Il y a deux, ils avaient par exemple Onyeou. Comment tu peux récupérer Onyeou gratuit si tu as Lugano gratuit?
Non, mais je sais, mais Marvolo, mais évidemment, mais ça c'est les erreurs incalculables de.
Oui, mais ça fait 3 ans qu'ils font des conneries. Depuis la Ligue des Champions, c'est n'importe quoi.
Mais le recrutement, on est 100% d'accord, ça, on est totalement, mais alors totalement d'accord avec ce problème-là. Mais bon, enfin, je sais bien. Il faudrait revenir aussi sur la piètre performance. Là, donc là, on parle du milieu de terrain et de l'attaque. La piètre performance de Jankulovski et de Zambrotta. Hein. Alors là, eux deux totalement.
Le manque total... de déjà sur le corner pour le Milan. Sur la faute de Gattuso sur le penalty, il y a un grand espace qui est laissé par Jankulovski, je pense, parce que c'est ça vient sur le côté gauche de la défense milanaise. T'as pas le droit, quoi. Franchement, t'as pas le droit de laisser tout seul sur un côté et qu'il part tout seul et après soit il marque ou soit il se fait faucher par.
Et en plus, on peut même pas se raccrocher. Vu que les individualités sont vraiment en dessous de tout en ce moment, on peut même pas se raccrocher à une espèce d'esprit de collectif où il y aurait justement une espèce de coordination en défense qui permettrait de combler les lacunes personnelles de chacun. Puisque là, justement, Leonardo, qui est très peu expérimenté, a pas vraiment cette.
Déjà, moi j'étais pas fan, moi.
Ouais, voilà.
Moi, j'étais pas fan que Leonardo soit entraîneur déjà.
Ah bah non, mais on est d'accord. Et voilà, et des cas comme ça. Alors déjà, vu que les joueurs individuellement ont un niveau de pire, j'ose pas dire le mot parce que c'est pas, je vais être un peu dur. Mais, voilà. non, mais médiocre, parce qu'il y a vraiment des joueurs, c'est médiocre. Et effectivement, on peut même pas se raccrocher à un espèce de semblant de collectif, un espèce d'esprit de groupe qu'aurait pu inculquer peut-être à Ancelotti s'il était resté, puisque Leonardo a pas ce bon sens tactique-là. Et je lui en veux pas. Ça fait 2 mois qu'il est à la tête d'une équipe. On l'a peut-être un petit peu canardé trop vite. C'est pas lui.
Non, c'est pas vraiment de sa faute à lui. Voilà, hein. Lui, parce qu'il fait
on peut pas se raccrocher à ça, tu comprends.
C'est trop facile de dire que c'est la faute de Leonardo. Non, c'est pas la faute de Leonardo. C'est la faute de plusieurs erreurs, comme Habib l'a dit en début de sujet. Des erreurs de recrutement, des erreurs d'organisation. Maintenant,
c'est intéressant ce que disait Habib, évidemment, sur Lugano, parce que on nous répétait souvent, quand des journalistes, j'essaye de regarder souvent des émissions avec les dirigeants milanais dedans, et souvent, quand les journalistes posent des questions en disant, sur justement ce recrutement, ils disaient, mais on n'a pas les moyens de faire puisque le patron Berlusconi veut plus investir un sou dans le club. Mais là, Marvolo nous donnait un exemple, au lieu de prendre Onyeou gratuitement, tu avais un joueur comme Lugano qui est vraiment fort, moi je le connais pas trop, mais
Lugano, il est beaucoup plus fort, hein.
Voilà. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un super joueur. Là, il jouait à Fenerbahçe ou à Galatasaray, je sais plus.
Fenerbahçe.
Ouais. Et on l'a pas pris, donc c'est là encore, les erreurs sont gigantesques, parce que on peut même pas se recroqueviller derrière le fait que on n'avait pas l'argent, puisque là, en l'occurrence, c'est un gars gratuit, donc la cellule de recrutement Milan est totalement HS, quoi. Et c'est vrai
qu'il
en
fait. Faut qu'il se remette au boulot.
Et d'ailleurs,
ça va être dur hein, pour vous. Hein. Faut dire la vérité. Hein.
Les erreurs de Leonardo que je soulignais tout à l'heure, j'ai eu très très peur quand j'ai vu qu'il faisait rentrer Huntelaar.
Allô.
Allô.
Ouais, c'est bon.
Excusez-moi. Oui, donc je disais que une autre erreur de Leonardo, c'était par exemple de faire rentrer Huntelaar à la 60e ou 70e minute quand Milan est à 10, que Milan n'a pas la possession de balle, que Milan perd 3-0 dans un derby où Milan se faisait huer, où on entendait les chants qui demandaient le retour de Kaka, et tu lances un joueur comme Huntelaar en Serie A dans un derby quand tu perds 3-0, c'est pas une erreur. Alors heureusement que Huntelaar a fait 2-3 bonnes frappes et ça lui a permis ça a même relancé quelquefois la machine milanaise par 2 ou 3 fois, mais il était esselé totalement. Je veux dire, si le pauvre Huntelaar avait pas touché un ballon, ce qui aurait pu arriver, parce que si Pato lui avait pas donné 2-3 ballons, il en aurait pas touché un, il aurait pu se faire huer comme les autres et c'est le meilleur moyen pour cramer un joueur. Donc là encore, on voit le manque d'expérience. Le manque d'expérience de Leonardo qui est criant encore sur là-dessus.
La première mi-temps, Arnaud, la première mi-temps de Milan a été catastrophique dans tous les points de vue, dans tous les compartiments, elle a été catastrophique. Aussi bien au niveau du jeu, au niveau comportement des joueurs, avec Gattuso, on en a pu en parler. 3-0 à la mi-temps, à 10 contre 11. Le deuxième mi-temps, t'espères plus rien, quoi. T'espères juste que ça te fasse
pas trop de soucis. C'est ce qu'on disait, hein. C'est ce qu'on disait, on en parlait à la mi-temps, on dit c'est quoi ce qu'il faut espérer maintenant.
C'est
hallucinant.
C'est ça.
On va passer sur l'Inter maintenant, parce que il y a une belle équipe quand même, faut parler de cette belle équipe, hein. Juste pour dire, oui, une petite mention quand même, s'il y avait un joueur à Milan qu'on pouvait relever en plus de Pato, c'est peut-être Flamini qui est quand même...
Zedorf
a fait une bonne entrée, effectivement, Zedorf, ouais. Bon, donc on passe à l'Inter maintenant. Donc tous ceux qui veulent réagir, Roméo, si tu veux dire ton petit commentaire sur cette équipe. Est-ce que cette équipe aurait par exemple les moyens de lutter en Ligue des Champions? Moi, je suis de plus en plus
à y croire. La grande question.
Ouais, c'était la grande question.
Lutter, c'est-à-dire?
Lutter, ça veut dire aller
la minimum. Gagner, quoi.
Oui, voilà, lutter. Oui, voilà, demi, finale, voire la gagner, quoi. C'est au moins demi, quoi. L'Inter, je rappelle qu'ils sont pas allés en demi-finale de Ligue des Champions depuis les années 2003. Il me semble que c'était un derby face au Milan, justement. Ça doit être 2003 ou 2002, je sais plus. Un derby face au Milan et qu'ils perdent. Et nous, on va en finale contre la Juve. Ça doit être 2003.
C'est ça.
Je sais pas parce que...
Oui, voilà, Roméo, vas-y.
Là, ça fait 2 matchs, hein, 2 matchs de jouer. Je pourrais pas vraiment définir je pourrais pas dire si l'Inter à l'heure actuelle peut vraiment dans 6 mois, même plus, dans 7-8 mois, accéder à une finale et gagner la Ligue des Champions, tu vois, je pourrais pas te dire maintenant, mais c'est clair qu'ils sont énormément renforcés par rapport à l'année dernière. Le match d'hier, c'était une démonstration, Schneider excellent, c'est Eto, un excellent Milito également. Donc ça serait une équipe sur laquelle il faudra compter, mais te dire exactement si l'Inter va gagner la Ligue des Champions, tu vois, je sais pas, mais il faudra compter sur eux, c'est sûr.
T'as raison, Arnaud, hein, quand tu dis que Schneider, ça faisait 2 jours qu'il soit là, et Mourinho a eu les cojones pour mettre titulaire d'entrée. Moi, je trouve que c'est du grand Mourinho, quoi.
Enfin, de quoi les cojones? T'as vu l'effectif du...
Oui, mais bon,
attends, il y a rien à mettre à ce poste-là. Non, d'habitude, c'est Stankovic, il sait pas jouer à ce poste-là. Alors que là, Schneider, tu le mets exactement au poste qu'il...
Il aurait pu tenter Muntari, quoi, dans ce poste-là.
Muntari en numéro 10.
Non, mais il l'a déjà fait, c'est pas une réussite.
Mais c'était nul.
Il aurait pu essayer
d'assurer. Tu avais un des meilleurs numéro 10, si ce n'est le meilleur numéro 10 actuellement au monde.
Ouais.
Il arrive au Real Madrid, il a fait toute la préparation. Il s'est même pas fatigué parce que sur la fin, les abrutis le faisaient même pas jouer, le convoquaient même pas. Donc, évidemment, le mec, il arrive, c'est même pas, tu vois, c'est pas comme Brandao qui est arrivé à Marseille et qui est revenu avec 30 kilos de plus. Non. Là, le mec, il était fit, il est arrivé à son maximum quasiment physiquement.
C'est vrai.
Et puis, il est super relax. Puis, il a aucun problème à jouer à ce poste-là.
Exactement,
il a une facilité,
Mais la grande, mais grande différence avec l'Inter de l'an passé, c'est que maintenant, vous avez plus le meilleur joueur du monde contre Catania. Vous avez le mec qui marque des buts en finale de Ligue des Champions, hein. Eto, c'est pas Ibrahimovic. Et avec toutes les conneries que j'ai pu entendre cet été,
Est-ce que c'est une bonne affaire pour toi, Marvolo, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler?
Bien sûr, c'est une bonne affaire. Comment t'es
changé? Bien sûr.
Ibrahimovic, jusqu'à preuve du contraire, c'est une merde en Ligue des Champions.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Bib. Je suis d'accord avec toi.
Eto, quelle que soit l'équipe qui est devant lui, il la viole.
Ah bah ouais.
Il n'y a pas une seule équipe en Liga contre qui il n'a pas marqué. En Ligue des Champions, c'est toujours lui qui est là pour mettre les branlés. On a beau parler de Messi, de Xavi, tout ça, en finale de Ligue des Champions, il lui allait comme un grand. Il allait tous les violer un par un.
Vidic, contre Arsenal et contre Manchester. Non, j'ai dit Eto'o, il a marqué contre Arsenal et Manchester en finale.
Voilà. C'est théoriquement la meilleure équipe, la meilleure défense du monde. Il l'a violé sur son but. Il l'a violé. C'est la même équipe contre qui Ibrahimovic n'a pas été foutu de marquer. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il a fait un bon match, tout ça. Ouais, au bout d'un moment, si tu frappes sur les poteaux, on l'a vu tout à l'heure, hein, on va pas remettre une médaille à Brandao parce qu'il a tapé sur le poteau. Voilà la différence entre les deux. Ibrahimovic tape sur le poteau, Eto'o marque. Et c'est la différence.
C'est surtout Eto'o
et Milito qui a été très, très, très snobé par les clubs espagnols.
Excellent, hier. Excellent.
C'est un super joueur.
Excellent.
Mais comme je le disais deux, trois fois l'an passé, c'est l'une de mes énormes déceptions de l'année, c'est de savoir que le dernier jour du mercato, quand le Betis récupère Sergio Garcia, ils avaient voulu récupérer les deux.
Ouais, c'est vraiment dommage. Et que le
contrat avait été signé depuis 5 minutes. Ça m'a fait très mal, parce que si tu récupères Sergio Garcia et Diego Milito à la pointe du Betis, le Betis ne descend pas. Le Betis va en coupe de l'UEFA. Vu les peintres qu'on a en attaque, avec Milito, c'est autre chose. Hein.
Milito, c'est un autre niveau. Hein.
Bah oui, c'est ça. Moi, quand j'apprends que l'an passé, pour te donner une idée, je sais pas combien elle a pris. Je sais que l'Inter l'avait pris, mais avec des prêts où ils ont donné Acquafresca au Genoa. Ouais, et tout comme ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de transactions.
Aussi qui est venu à l'Inter.
Ils ont payé combien d'argent pas au Genoa, mais... Je sais pas en fait si le Genoa l'a racheté pour ensuite le revendre, ou ils ont négocié directement avec...
On n'a jamais eu les chiffres exactement. Je sais que l'Inter a déboursé quand même de l'argent, mais on n'a jamais eu, parce qu'ils ont aussi également mis Crespo dans la transaction.
Voilà, ouais, moi je pense honnêtement que Genoa a été intelligent sur le coup, parce que déjà c'est un prêt payant, mais ils ont dû payer 2 millions et quelques d'euros avec une option qui n'était pas très élevée, bizarrement pas élevée, de 7-8 millions, pas plus. Ils l'ont racheté, et puis ensuite ils récupèrent Crespo, Acquafresca qui est un énorme espoir italien, plus une belle somme d'argent très certainement. Ouais. Et voilà, l'Inter récupère Milito qui, faut arrêter de penser que Milito c'est le joueur grand typique. Non, le mec il est très adroit, balle au pied, il est très rapide. Son gabarit, il est rapide.
Tu te rappelles d'un match il y a 2-3 ans, Saragosse, Real Madrid, le 6-0 ou 6-1 avec Everton et Milito?
C'était un match en Coupe d'Espagne où ils les avaient ravagés avec un but exceptionnel d'Everton. Alors, je vais essayer de vous chercher le lien pour le poster.
Là, c'est un viol.
C'est un but monstrueux, quoi. Milito, c'est le genre de. On en parle souvent des erreurs de transfert, et là, c'est pareil. Quand on apprend, et c'est le genre de truc qui m'a fait encore plus mal. Alors, au moins, le Betis n'a pas réussi à l'avoir parce que le contrat était déjà signé. Mais quand on apprend que Lyon l'a refusé parce qu'ils avaient Piquion. C'est vrai, ça. Puel a refusé Milito parce qu'ils avaient Piquion. À la limite, tu refuses Ricardo Oliveira. Je peux comprendre à la limite, dans une certaine mesure, parce que tu peux te dire, Ricardo Oliveira, il a été bon en Espagne, mais il n'a pas été bon en Italie. Donc, tu peux te poser des questions sur son adaptation. Milito, il a été bon partout. Ouais, il a été vraiment bon partout. À partir de là, tu n'hésites pas à le prendre. Et moi, cette association Diego Milito Eto'o,
ça va faire mal.
Parce que ils ont jamais joué ensemble, certes, mais ils se connaissent.
Oui, ils se connaissent.
Chacun sait comment joue l'autre.
Voilà, c'est ça, ils se connaissent. Et
puis, ils sont intelligents tous les deux. C'est des mecs très intelligents. On parle souvent des mecs qui sont capables de s'adapter ou pas. Et ben eux, si, ils s'adaptent parfaitement.
Des grands joueurs. C'est comme Schneider. Schneider hier, il a joué comme si ça faisait 2 ans qu'il était à l'Inter.
Mais c'est ça, il y a des joueurs qui sont comme ça.
C'est ça les grands joueurs.
C'est exactement ça. Ils n'ont pas besoin de s'adapter. Et lui, je pense honnêtement qu'il n'en a absolument pas besoin, tout simplement parce que c'est un vrai putain bon joueur. Après, le français ne le prenne pas, ça me surprend même plus, quoi. Ils nous ont montré à quel point ils avaient le flair, quoi. Et puis d'ailleurs, et puis de voir que par exemple, récemment, Maradona recommence à le rappeler, c'est pas une surprise. Et d'ailleurs, j'ai trouvé les chiffres, 22 millions.
22 millions, d'accord.
Ça, c'est, bon, il y en a qui vont voir le verre à moitié vide en disant, oui, mais il est vieux, parce qu'il a déjà 30 ans. Mais bon, Diego Milito, il a 30 ans, il est pas excessivement rapide, il va jouer jusqu'à 35-36 ans, donc tu peux encore le garder 3-4 ans. Et si sur les 3-4 ans, il te fait faire de bons parcours en Ligue des Champions, tu amortis son transfert.
Voilà. Absolument. On est d'accord.
On se fout beaucoup du recrutement de l'Inter parce qu'il surpaye les joueurs, mais ça c'est le premier bon recrutement de l'Inter Et je, quand je dis bon recrutement, je parle économiquement parlant, parce qu'ils recrutent jamais des chèvres. Mais là, ils ont fait de
Schneider 15 millions. Schneider 15 millions,
c'est dérisoire.
Si, cadeau. En gros, c'est comme s'ils avaient échangé Ibrahimovic, parce qu'au final, il en revient à 48 millions.
Mmh. Ah, c'est 48
48 millions. Bah oui, parce que c'est 45 millions plus
des bonus.
Non,
le prêt de l'Eb.
Voilà, c'est 3 millions de pénalités pour le prêt de l'Eb, vu qu'il a préféré aller à Stuttgart.
J'étais resté à 40, moi, juste.
Non, 45 plus 3 de pénalités, ouais, 3 millions pour récupérer Maxwell. Donc, ça fait 51 millions. Donc, 51 millions plus Eto. Et avec cet argent-là, ils ont pu acheter tous leurs joueurs, parce que ouais. Militu, ça fait 22, et Schneider, ça fait 15, donc ça fait 37. Mota, je sais pas combien ils l'ont acheté, mais ça n'a pas dû coûter...
C'est dans la transaction de Militu.
Hein?
Putain, c'est dans la transaction de Militu, c'est dans
d'accord, les 22 millions. 22 millions, on va dire que c'est... Donc en gros, ils font un bénéfice de 15 millions, mais ils récupèrent Eto, Militu, Schneider, Mota. Super. Super. Ça, c'est vraiment une transaction football manager.
Pour une fois, hein. Habib, pour une fois, ils recrutent mal, hein.
C'est bien pour ça que je dis que pour une fois...
Mais faut le dire. Voilà. Faut vendre les mérites.
L'Inter va faire très très peur cette saison, hein. Faut dire la vérité, hein. Avec la Juve, ça va être la Juve et l'Inter qui vont se battre pour le titre, hein. Ça c'est.
Ah bah ouais, ça on est. Des mots, c'est... Ça, évidemment. C'est... On est d'accord.
Mais je pense que la Juve va vraiment faire une grande saison, moi. Je sais pas pourquoi je la vois championne, moi.
La Juve
va peut-être. Je vois la Juve champion, moi.
La Juve, enfin l'Inter va peut-être connaître le petit souci que a eu. Enfin. C'est vraiment une comparaison difficile à faire, mais qu'a eu Lyon l'an passé, parce que t'as des mecs comme Zanetti ou Julio César qui aimeraient bien figurer en Ligue des Champions. Un peu comme on a eu Juninho l'an passé ou Chris qui voulait faire un bon parcours en Ligue des Champions. Bon, après, ils se sont fait sortir par le Barça, bon, d'accord. Mais, là, comme l'Inter, justement, a une grosse équipe, je pense qu'il y a des cadres qui voudraient bien, des Samuel qui voudraient bien essayer au moins de faire un beau parcours Ligue des Champions, et peut-être que sur les journées de la fin, on pourrait peut-être délaisser un petit peu les
on a oublié Lucho. On a oublié, excuse-moi de te couper, mais on a oublié aussi le recrutement de Lucho aussi, le défenseur brésilien.
Effectivement, ouais. Très 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 bon défenseur aussi, oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont... Bah je regarde l'équipe, t'as 5 nouveaux joueurs qui sont titulaires. Dans cette équipe-là, donc t'as la moitié de l'équipe refaite et t'as quand même une coordination hallucinante, quoi. T'as eu un jeu hier, on croyait que les gars, comme vous disiez, on croyait qu'ils se connaissaient depuis 3 ans, quoi.
Exactement. Mais surtout Arnaud, je te couper, mais Habib, la dernière fois, il avait dit que l'Inter était championne en jouant mal. Et là, s'il commence à jouer bien, je sais pas ce que ça va être.
Oui, non, mais on est d'accord.
Voilà,
faut dire que c'était par défaut un petit peu aussi, parce qu'il n'y avait pas des très bons clubs les années passées quand l'Inter a été championne. Là, comme il y a la Juve, on va voir, mais bon, pour en finir donc avec cette Inter, très très bon donc recrutement, un très bon Mota aussi, donc on en a touché deux mots, un super joueur aussi.
Maicon,
ouais, toujours. Bah, moi quand je dis que c'est le meilleur arrière droit du monde, on me dit que c'est Daniel Alves.
Non, moi je suis barcelonais. Je suis barcelonais et je te reconnais.
Toi aussi, t'es barcelonais?
Non, je voulais dire moi aussi, je...
Non, mais bon, moi je suis barcelonais et je reconnais que Maicon a juste une marche de plus que Daniel Alves.
Moi je suis pas d'accord, je suis pas barcelonais, pourtant je vois pas pourquoi Alves est moins bon que Maicon.
Non, je dis pas qu'il est moins bon. Honnêtement,
c'est le genre de débat, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais je ne choisis même pas, tout simplement. C'est sensiblement le même niveau. Après, il y a toujours des arguments. Les pro Maicon diront oui, mais Maicon, il est super bon, il marque plus que Dani Alves. Bon, après ça, Dani Alves au Sevilla, on a marqué des buts. Et puis les pro Dani Alves, ils pourront dire oui, mais Dani Alves, quand il est dans une équipe, ça gagne la Ligue des Champions. Et voilà, on a le droit de le penser aussi, de dire que pendant les deux titres, les deux Coupe de l'UEFA qu'ont gagné le Sevilla, c'est en grande partie, c'est l'artisan numéro 1 de ces deux titres.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, on a le droit.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Abim.
Non, mais voilà, c'est pareil.
C'est deux fantastiques joueurs, c'est deux joueurs d'un niveau international, ça c'est, y a rien à dire, mais j'ai un petit fait pour Maicon, moi je te dis
Non, mais c'est pour ça que tu as raison, mais moi ce que je voulais te dire, c'est que là c'est un débat où, moi de toute façon, qu'il y en ait un qui me dise qu'il préfère Maicon, qui me dise Daniel Alves, je respecte les deux avis. Alors voilà. Que là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'avoir un petit débat sur un mec qui est en train de m'expliquer que Diego est à peine en dessous de Steven Gerrard. Là pour le coup, tu vois, ça m'énerve vachement plus. On est en train de me comparer à un mec qui a brillé dans la deuxième division européenne et que l'autre gars qui gagne des Ligues des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, 4 ou 5 fois dans l'équipe type de l'année de l'UEFA. Excuse-moi, mais là pour le coup, tu vois, les arguments sont moins recevables. Mais Daniel Alves, Mekan, c'est kiff-kiff.
Ouais, c'est vrai, mais bon.
Bah, alors, tu reconnais que. On va en parler de Diego, c'est quand même un super joueur. Mais enfin,
ah, c'est un super joueur, mais le problème, c'est qu'il a, moi, avant de dire qu'il a le niveau de Steven Gerrard, j'attends de voir ce qu'il vaut en demi-finale. La différence entre les deux, c'est que Diego, on dit, il peut être bon en finale de Ligue des Champions. Steven Gerrard, on sait qu'il est bon. C'est exactement le débat que j'avais eu avec les Madrilènes l'an passé pour des joueurs comme Robben, comme Pepe, tout ça. C'est des mecs qui, moi, je pense honnêtement que Robben, s'il joue en finale de Ligue des Champions, il va être bon. Pepe, pareil. Mais tant qu'on l'a pas vu, d'un côté t'as un mec, tu as des certitudes, et de l'autre c'est juste des conjectures, des hypothèses. Exactement. Voilà la différence. D'un côté c'est le concret, de l'autre c'est de l'abstrait.
Exactement. Oui. Tout à fait d'accord.
Bon. Ouais, ben. On est d'accord avec toi Marvolo, donc voilà ce derby donc qui je voulais juste vous expliquer là le petit truc dont je vous ai touché deux mots tout à l'heure. Donc pourquoi il y a eu un derby, c'était la première fois qu'il y avait un derby comme ça Milan-Inter en août. C'est parce que Platini a annulé, il y avait une règle avant qui permettait lors du tirage du calendrier de la Serie A, qui permettait aux cinq gros de la saison passée, donc c'était souvent déjà, t'avais tout le temps Inter, Juve et Milan dedans, de ne pas se rencontrer avant la cinquième journée minimum. Et donc, il n'y avait jamais de gros choc au bout de la première ou de la deuxième journée comme on a pu avoir là. Et cette année, donc, c'était une première. Platini, qui lui aime bien tout ce qui est équité, voilà, a donc là voulu donner autant de chance. Autant de chance à un derby à la première journée qu'en plein hiver. Donc effectivement, on a eu droit à un derby au bout de la deuxième journée. Voilà l'explication. Messieurs, on va...
C'est une première, hein, Arnaud. Et c'est une première que Milan perd contre l'Inter 4 buts d'écart. Enfin, pas une première, mais ça faisait bien, bien longtemps.
4 buts d'écart, je crois pas que ça soit une première. Non,
Non, c'est pas une première, mais c'est il y a très longtemps. Il y a très longtemps.
Ouais, il faudra que je retrouve. J'ai essayé de retrouver les stats avant la fin de l'émission pour vous en dire deux mots. Alors, passons donc au gros match qu'il y avait. C'était l'autre gros choc de cette journée de Serie A. Juve Roma.
Oui.
Ce match-là, et car je sais au moins lui qui va pas s'enflammer sur le phénomène Diego, parce que beaucoup de gens là commencent à le comparer vraiment à Platini et à Zidane de l'époque turinoise. Donc on va rester quand même mesuré.
C'est que le début.
Voilà, même si c'est un super joueur. Donc Marvolo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce match-là? Qu'est-ce que tu en retiens outre la piètre performance des Romains, je suppose?
Ben, on a enfin pu voir une équipe de la Juve un poil plus meilleure physiquement. Hein. Bon, il y a toujours des joueurs qui sont absents, notamment Momo Sissoko, Zebina qui a pas joué. Il a préféré faire jouer des Chelier plutôt que
Jovinko,
il est pas titulaire à la Juve.
Ouais, surtout quand t'as dit.
Non, il est pas titulaire comme
Zebina dit. Aussi.
Zebina est titulaire à droite. Hein,
ouais, si, à la place de.
Ah bon
de
Zebina, est à
droite. Zebina, c'est un joueur qui est très très sous-estimé.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein.
Bah, oui, mais parce qu'il enchaîne
des blessures. Il est blessé, il se blesse souvent. Zebina, je te dis, c'est un joueur qui est très très sous-estimé en France. Mais quand il est bon physiquement, c'est un très 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 bon latéral droit. Franchement, c'est un très bon latéral droit. Alors, c'est pas Mekan, c'est pas Daniel Alves. Enfin, c'est la deuxième catégorie. Quoi. Par exemple. Il est très bon défensivement. Il est très rapide, il se place bien. Et puis les centres, ils sont pas trop mauvais. Donc moi, c'est personnellement un joueur que j'aime beaucoup à la Juve, que j'ai toujours défendu, même quand
il est
à Roma, parce qu'il a cette réputation d'être un suppôt de Capello.
Non, mais je dis pas qu'il est mauvais, mais moi je le voyais jamais jouer. Alors je voyais plus Desiglier, par exemple.
Chili joue côté gauche, donc à droite c'est plutôt Pereira qui joue.
Ouais, c'est ça,
Grigera.
C'est Grigera qui a joué aujourd'hui, de temps en temps. Mais très rarement, on a fait jouer même Salihamidzic.
Ouais.
Voilà. Et puis sinon, devant, comme je l'ai dit, bon, là, c'est l'arbre de Noël, hein, c'est la grande nouveauté. Avec Melo devant la défense, Thiago à droite et Marquisio à gauche, Diego en numéro 10 et devant Mauri Acquinta. Ça a super bien marché, donc Trois buts tous aussi jolis les uns que les autres, même si j'ai un petit faible pour le but de De Rossi. Et puis voilà, voilà, la Roma c'est pathétique. C'est franchement devenu une équipe pathétique. Ils ont rien pour eux quasiment. Ils ont rien pour eux quasiment.
Totti a raté une grosse occasion.
Il a tapé le poteau, Amaury a tapé le poteau. Le truc c'est que
si la Roma aurait gagné, ça aurait été un hold-up pour
Totti. Totti a de plus en plus de mal contre la Juve pour une raison évidente, c'est que depuis que Chiellini a commencé à aller en équipe nationale et a commencé à côtoyer Totti, il a appris à mieux le connaître. Donc il sait très bien le marquer. Chiellini a fait un match éblouissant, quoi. On parle de Diego, mais Chiellini défensivement, c'est un monstre. Mais c'est vraiment un monstre.
C'est un des meilleurs actuellement.
C'est l'un des meilleurs. C'est un des meilleurs défenseurs centraux au monde.
Je sais très bien. De toute façon, c'est pas à vous.
On est habitué avec lui.
Voilà. C'est en plus un défenseur qui fait quasiment aucune erreur, mais son repositionnement, parce qu'il faut pas oublier qu'avant il jouait plutôt côté gauche.
C'est vrai.
Et puis là, il se met, maintenant qu'il est passé côté dans l'axe plutôt, c'est très bon. Cannavaro, c'est pas une surprise de dire que il est en train de revenir à un bon niveau, parce qu'on sait très bien que en Italie, il a une certaine aura. Et puis bon, il est comme un poisson dans l'eau, donc il joue très bien. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir des mecs qui marchaient pas trop l'an passé, comme Thiago, qui était pas terrible l'an passé, qui là se met à être franchement pas mal du tout. Felipe Melo, c'est un monstre, quoi. Il a un impact physique, mais moi quand je vois ça, j'ai peur pour les Bordelais, quoi, parce que s'ils ont eu du mal contre l'impact de Mbia, contre la Juve, ils vont vraiment galérer. Et encore plus si Momo Sissoko revient. Après, Marquisio s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave, même si bon, le truc de la Juve, c'est qu'il y a Marquisio qui sort et c'est Camoranesi qui rentre. Donc
c'est le banc, ouais. C'est ce que je voulais dire.
Non, mais c'est ça.
Ils ont un banc de malade. Hein. Ils ont un banc de malade.
La Juve. Je dis que le dernier choix au milieu de terrain, c'est Poulsen. Ça te montre que même niveau le joueur le moins bon, ça reste quand même un international. Donc voilà, pour moi c'est une grosse équipe. Ils ont été largement meilleurs qu'au contre le Chievo. Bon, ils ont été vraiment aidés parce que la Roma c'est vraiment devenu une équipe de merde, hein. Recrutement pathétique. Ils ont recruté personne, donc c'est rapide, hein. Ils ont pris Bourdisson en prêt.
Et ils ont Guberti, c'est un petit jeune de série B là qui vient de monter avec Bari, qu'ils ont recruté à 1 million d'euros, mais à peine, je crois, même pas 1 million d'euros, ou 500 000 d'euros. Donc oui, non, mais Marvel a raison, ils ont recruté personne. Ça, il a tout à fait raison.
Voilà, à partir de là, quand tu te fous de la gueule du monde et que tu recrutes personne, tu mérites d'être nul. Et c'est dommage, parce que la Roma, c'est quand même un des plus beaux publics d'Italie. Aller voir se prendre des branlées, et puis là, ça commence à devenir une habitude, la Juve qui vient mettre une branlée à Rome. Ils leur ont mis 4-1 il y a 2 ans avec, vous vous rappelez, un petit doublé d'Ibrahimovic.
Ouais.
Et puis, c'est pareil, quoi. Ils sont en train de leur mettre branlé sur branlé. 2 matchs, 2 défaites, ça a dû faire très longtemps qu'ils n'ont pas commencé aussi mal. Et puis voilà, la Juve, c'est une équipe très, très costaud. Ouais. Avec en plus, un potentiel offensif plus intéressant que l'an passé. Et c'est ça qui est contradictoire, parce qu'ils jouent avec moins de joueurs offensifs. Parce que, Marquisio et Thiago, c'est des mecs qui sont bons, c'est des bons tripoteurs de ballon. Et puis Thiago, c'est surtout le passage au 4-3-3 qui lui fait énormément de bien, parce que avec le je sais plus comment on appelle ça en Italie, mais enfin en Espagne on appelle ça le doble pivoté, donc en gros c'est 2 joueurs devant la défense, 2 axios, ça lui allait pas du tout. Là à 3, il est vraiment à l'aise. Et voilà, il y a tout plein d'éléments qui sont en train de
ça lui rappelle ses années lyonnaises.
Et puis de voir, voilà, et puis de voir que Del Piero n'a pas joué, Trezeguet, apparemment il serait pas dans les bons papiers de Ciro Ferrara, mais après, moi je te dis, les remplaçants de la Roma, bon, tu vois que d'un côté la Juve a fait rentrer Camoranesi, Pulsen et les gros taliers, ils ont fait rentrer, bon, Vucinic, ça reste une valeur sûre, mais il va se barrer, Toneto et Cerci. Bon, Alessio Cerci, c'est un mec qu'on connaît depuis pas mal de temps, enfin surtout les fans de Football Manager, parce que
on connaît, donc
je veux dire que même si on l'a rarement vu jouer, on voit quand même qui c'est. Bon, il a 22 ans. Là, c'est pareil. On peut pas demander des trucs aussi énormes à des gamins comme ça. Mm. Il a été prêté à l'Atalanta, il a été prêté à Brescia, à Pise, donc c'est pas non plus un cador. Mais bon, moi je pense que c'est tout le symbole du mauvais recrutement de la Roma, quoi. Et puis Totti, voilà, il jouait tous les trois jours, c'est plus possible pour lui, hein.
Faut pas. Ah oui. Déjà, c'est un miracle qu'il soit pas blessé.
Il a joué l'Europa League en milieu de semaine deux fois de suite, chose que je trouve complètement aberrante. Parce que bon, il avait pas. Une fois que tu leur mets 8, je sais plus combien il leur avait mis, je crois 6-1 à l'extérieur.
Ouais.
Je pense que t'as pas besoin de le faire jouer lui, tu essaies de faire jouer quelqu'un d'autre, histoire qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Et puis après, moi, il y a Marco Motta, je comprends pas pourquoi il a pas plus de temps de jeu, parce que.
Ouais, c'est un super arrière droit.
C'est un très bon arrière droit, et puis Cassetti, c'est pas possible, quoi. Moi, je le trouve de plus en plus mauvais, ce gars-là.
Oh, l'erreur qu'il fait sur le premier but.
Tout le temps, quoi. C'est ça le problème, c'est que la Roma, comme je disais, c'est tous les joueurs qu'on a connus au travers de Football Manager, maintenant ils sont quasiment tous arrivés à maturité. Donc voilà, quoi. Maintenant, il faut les faire jouer. Bon, lui, il vient de l'Atalanta, il me semble. Mais,
Marco Motta?
Formé à l'Atalanta.
C'est à l'Udinese qu'il était avant.
Non, mais je dis formé à l'Atalanta.
Pardon, oui.
Parce que non, mais comme j'ai dit que c'est les joueurs qu'on connaissait depuis Football Manager, je me suis dit peut-être que vous allez faire l'amalgame et penser que je parlais du centre de formation de la Roma. Non, c'est pas ça, mais voilà, quoi, c'est. Je comprends pas, en plus, il me semble qu'il est capitaine de l'équipe espoir ou quelque chose comme
c'est ça.
C'est un mec qui a connu toutes les sélections italiennes de jeunes, donc c'est. On peut pas dire que ce soit une surprise. Bah, bon, il y a un moment où il faut lui faire un peu plus confiance, surtout quand t'as Cassetti qui est pas Maicon, quoi.
Non, mais là, on est tout à fait d'accord, en volo, surtout sur le plan du recrutement, de la Roma, qui a été qui a failli être vendu, cet été. On a entendu un long film comme quoi la Roma allait céder à des investisseurs italiens. Finalement, ça ne s'est pas fait. Totti qui avait démarré quand même la saison, à plein régime. Bon, tu vas me dire, Marvolo, c'était contre Kozice, contre la Gentoise, etc. Mais il en était à 10 buts en 5 matchs. Donc là, ça fait 10 buts en 6 matchs.
Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme ce que je disais. Quand on voyait un Bordeaux souverain contre Nice, contre Lens.
Oui,
puis on a vu contre Marseille à qui il manquait son meilleur joueur, Lucho. Bah, déjà, c'est pas passé. Donc, faut juste aller un petit peu. Faut pas se calmer, parce que c'est pas comme si tu disais que c'était la fête du slip, mais faut y aller doucement, quoi.
Oui, non, on est d'accord. Mais voilà, alors, de toute façon, on savait que la Roma ne pouvait, ce soir en tout cas, ne compter que sur un exploit de Totti qui n'est pas arrivé. On a eu un éclair de Derola aussi, mais ça n'a pas suffi, et de toute façon, la Roma va avoir une saison aussi extrêmement difficile comme Milan. Et c'est là où je pense qu'on a fait le tour là sur les deux clubs. On a bien parlé de la Juve et de la Roma. Je voudrais enchaîner sur le Genoa, qui a vraiment un coup à jouer cette année, cette saison en Serie A, parce que le Genoa va pouvoir profiter et de la baisse de forme de la Roma, et de la baisse de forme du Milan, et de celle de la Fiorentina, qui est pas au mieux, mais alors pas du tout, ouais. Après la perte de Melo, le fait que leurs dirigeants également n'investissent pas un copec dans le recrutement, ce qui est un vrai problème.
Ils ont failli se faire éliminer, ils ont failli ne pas aller en Ligue des Champions.
Hein. Pas aller en Ligue des Champions, ce qui aurait été catastrophique, parce que c'était un déficit en plus de 15 millions. Enfin bon, c'est vraiment joué à très peu. C'est le petit Jovetic qui a.
On en
parlera justement, ouais. Ouais, on en parlera de lui, qui les a sauvés, mais. Mais en tout cas, c'est vraiment la Fiorentina fait aussi office, enfin fait très peur cette année en Italie. C'est tout le paradoxe, parce que t'as soit des clubs qui ont très bien recruté comme la Juve et comme le Genoa ou comme encore donc l'Inter, ou alors t'as des clubs qui n'ont rien recruté comme Milan, comme la Roma ou comme la Fiorentina. Ils ont recruté Marchionni, c'est leur meilleur recrue. Alors bon,
Marchionni, ouais.
J'aime bien, mais bon, faut pas non plus, c'est pas non plus un. Quand il joue à la Juve, Marvolo, tu me confirmes, c'était pas non plus un foudre de guerre, quoi.
Marchionni, il a quasiment jamais joué à la Juve parce qu'il était tout le temps blessé.
Il a quand même quelques fois été titularisé. Ouais,
mais bon, il était quasiment tout le temps blessé, faut pas déconner. Un mec, s'il est blessé 4 mois et puis qu'il revient sur les. Tu sais que les 3-4 premiers matchs, il va être pourri. C'est une évidence. Marchionni, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur de Serie A. Et puis, comme je le disais, c'est suffisant pour la Serie A, c'est suffisant pour le premier tour de la Ligue des Champions. Mais après, c'est sûr que c'est pas lui qui va t'éliminer le Barça. Ça, on est d'accord. Et puis, Zanetti, c'est un putain de joueur, quoi. Non, Zanetti qui récupère la Fiorentina pour 2 millions et demi.
Ouais. Bah à mon avis, il y a eu dû avoir un arrangement enfin avec l'arrivée de Melo, je pense que ça doit être lié parce que c'est pas possible qu'un gars comme Zanetti arrive que pour 2 millions. Enfin moi je trouve ça assez
Bah c'est pas forcément un arrangement, mais c'est normal quand tu récupères Felipe Melo à 25 millions, bah tu es tenté de dégraisser un peu l'effectif et puis comme il vient de te vendre un joueur, bah il y a toujours une sorte de tendresse et tu te dis bon, ils viennent me vendre une de leurs stars, on va leur vendre aussi un joueur. C'est un peu normal, mais 2 millions et demi, je trouve que c'est pas normal.
Ah, c'est un super, non, là, c'est une bonne affaire, ouais. Mais alors, donc, passons au Genoa, je dis, qui a vraiment un coup à jouer. Donc, on a parlé tout à l'heure des recrutements du Genoa, avec notamment Crespo, avec Flo Cari, pour ceux qui connaissent de l'Atalanta Bergame, qui jouait l'année dernière. Super joueur aussi, Flo Cari, c'est un bon petit joueur de Serie A. T'as Houssine Karja aussi, pour ceux qui connaissent, c'est un franco-marocain.
Bon joueur à Sienne.
Ouais, il joue à Sienne, donc
faut arrêter avec vos délires de franco-marocain. Il est international.
Marocain.
Non, mais parce que moi ça me fait marrer.
C'est sale,
hein.
Alors, c'est...
Non, mais parce que si tu veux, Drogba c'est un franco-ivoirien, mais Zidane c'est un français.
merci Habib.
Je voulais te dire, c'est juste avec ça, moi ça me fait marrer. Non, si il joue avec l'équipe nationale du Maroc, faut arrêter de vous donner du mérite pour tout, hein. Il est né au Maroc, il est né en France, ça veut pas dire que... Non, mais bon, je t'avoue que c'est abusé cette histoire-là, quoi.
Le Marocain Houssine Karja.
Non, mais voilà. Surtout, non, mais parce que, encore après, il y a des proportions énormes, hein, quand on m'explique le franco-argentin Higuain alors qu'il sait pas parler français.
Grave.
Voilà, quoi, faut... C'est toi qui respires, ouais, connard.
Arnaud. Ah, on a perdu Arnaud. On a perdu Arnaud. Donc, dire, je vais être honnête, j'écoutais pas trop, je sais pas de quoi vous parliez.
Ah, c'est un petit problème technique. Oui, donc, on parlait, là, donc, excuse-moi, Marvolo, pour Karja. Et aussi, je voulais, toucher deux mots là d'un super joueur qu'ils ont recruté parce que je l'ai vu jouer contre la Roma, c'est vraiment un mec énorme, Zapater, qui jouait à Saragosse. Alors j'ai été épaté par le niveau de ce gars-là. Ça encore, c'est une super recrue de Gasperini, le président du Genoa. C'est vraiment des super coups que ce gars-là réalise. Et on s'en rend compte, quoi, parce que quand il va te chercher Thiago Silva à Barcelone, que tout le monde dirait comme un boulet, Thiago Motta, pardon, excusez-moi.
Mais il n'était pas à Barcelone, il était à l'Atlético Madrid.
Ah oui, il était à l'Atlético. Mais enfin, il était considéré comme un boulet, il me semble, en Espagne.
Bah, problème, c'est quand il s'est... Non, il n'était pas considéré comme un boulet, si tu veux. Comme Zebina, c'est un mec qui est très, qui a trop besoin de son physique. Il est beaucoup trop dépendant de son physique. Parce que bah évidemment il a un jeu qui est basé que sur ça quasiment, et comme il s'est tout le temps blessé à Barcelone, et ben sa cote a baissé. Mais quand il était à fond physiquement, il a joué à Barcelone. Et là j'ai pas les chiffres devant moi, mais il a dû jouer combien de matchs avec Barcelone? Au moins une centaine, quoi.
Donc
il
a fait une saison pratiquement complète à un moment. Hein. Il était devant la défense.
Du moment qu'il se blesse pas, voilà, il a joué exactement 96 matchs avec Barcelone.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Tu vois, à partir du moment qu'il se blesse pas,
tout va bien.
Il est très apprécié.
Ouais, enfin voilà. Non, mais je voulais dire par là que Gasperini avait eu l'intelligence d'aller chercher un gars comme ça, et il en a fait un des meilleurs milieux de terrain de Serie A l'année dernière. On pouvait le mettre dans l'équipe type de Serie A en compagnie des Campiasso ou des joueurs comme ça, des tout meilleurs vraiment. Et donc cette année, je suis sûr qu'un gars comme Zapater, enfin vu les débuts qu'il a fait, c'est une super recrue. Moretti, je trouve aussi que c'est un super joueur. Ils arrivent à garder un mec comme
Moretti.
Oui.
Emiliano Moretti.
Ouais, bah moi je le trouve. Bah...
Oh. Bah non. Ah, celui qui joue à Valence.
Si, c'est une vraie chef. Ah, non, je sais que j'adore ce joueur et mais bon, il est nul.
Ouais, c'est vrai qu'il est assez moyen.
Il est nul. S'ils l'ont vendu aussi facilement, c'est qu'il est pas terrible. Après, peut-être qu'il va se relancer, mais moi personnellement j'y crois pas plus que ça, tu vois. Et puis sur ce qu'il a fait, et pas que à Valencia, moi je l'ai aussi vu quand il était à la Juve, voilà quoi. C'est, et puis voilà, il a joué 5 ans en Espagne, ça a été 5 ans très difficiles pour lui.
Ouais, C'était très, ouais, non, c'est très
mais
moyen.
C'est vrai, à Valence, ouais. Oui, donc, une autre recrue qui a été un très bon gardien qu'ils ont pris. On n'avait jamais trop compris le sens du transfert. Ils ont échangé leur gardien avec le Palermo. C'était Marco Amelia.
Amelia.
Ouais. Très bon gardien. C'était le gardien.
Ah oui, puis,
c'est le remplaçant de Buffon, dans la plupart des cas en national. Et c'est un super gars. Ils ont réussi à conserver leurs deux bons petits latéraux, la Crescito et Bocchetti. Deux super joueurs, Bocchetti qui tape à la porte de la nationale, Crescito également. Ces deux joueurs qui jouent en espoir. Et ça fait que je pense vraiment que le Genoa a un coup à jouer cette saison. Et donc ce soir, ils ont gagné 1-0 à Bergame. Pas un super match, mais bon, Bergame qui a aussi un bon petit effectif. Là, ils ont conservé quelques bons joueurs. Ils ont recruté des bonnes valeurs de Serie A, des mecs comme Caserta, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, c'est une équipe, le Genoa, en tout cas, sur laquelle il faudra compter. Et moi, je miserais bien une petite pièce sur eux, troisième, plus qu'un Milan ou qu'une Roma.
Troisième, ça va être un peu dur, hein, mais bon. C'est vrai que c'est possible. Hein.
Parce que quand une fois, alors l'année dernière, ils proposaient un des plus beaux jeux de Serie A avec Cagliari. Parce que ces deux clubs peu connus proposaient vraiment un football très intéressant. Et cette année, on pensait, avec le départ d'un Milito et d'un Thiago Motta, on pensait que le niveau de jeu allait considérablement s'abaisser. Et finalement, ils ont trouvé les bons trucs. Ils trouvent un mec comme Crespo, qui est évidemment plus le Crespo qu'on a connu. Mais c'est le mec qui a toujours son instinct, quoi. C'est le gars, tu sauras si tu fais un centre, il sait où faut se placer, enfin bon, moi c'est un joueur que j'aime encore bien, Crespo, parce qu'il a toujours ce petit sens du but qui fait que c'est un joueur différent, quoi. On parlait aussi de Luis Figueroa, Marvolo. T'as un petit avis sur lui, tu le connais un petit peu?
J'ai jamais kiffé.
T'as jamais trop kiffé? Non.
Non. Il a été bon, alors je vais te dire quand, il a été bon lors de la Coupe des Confédérations 2005, il me semble. C'était celle où, pour te donner une idée, hein, c'était celle où la Tunisie avait failli nous battre, alors je te raconte pas le niveau.
Attends, Coupe des Confédérations 2005, tu dis? C'est celle que la France gagne face au Cameroun?
Non, ça c'est 2003. Nous, c'est celle où on se prend encore une fois une piquette contre le Brésil en finale, on perd 4-1.
Ah oui, 4-0, donc, pardon, avec le but voilà, de 4-1, ouais, avec Caïmar qui met une
tête. On élimine difficilement le Mexique au péno. Non, mais Billy m'en avait parlé la semaine dernière, et puis je t'explique comment ça se passe, Figueroa. Il est bon en Amérique du Sud, il va en Europe, il se plante, il revient en Amérique du Sud, il cartonne, il repart en Europe et il se plante encore. Il a fait ça toute sa carrière. Toute sa carrière.
C'est pas celui de Villarreal, ce qu'on avait.
Si, c'est lui de Villarreal.
Si, c'est lui
de Birmingham.
À Villarreal.
Bah, de toute façon, tu l'as vu au Genoa lors de sa première saison, c'était nul. Il est parti à Boca, il est revenu, là, il semble mieux reparti. Et il a fait ça toute sa carrière. Mais c'est ça. Rosario Central, Birmingham, Cruz Azul, Villarreal, River Plate, Genoa, Boca Junior, Genoa. Il n'a fait que ça de sa carrière. Par contre, avec l'équipe nationale, il a des stats monstrueuses. 9 buts en 15 matchs. Mais là, c'était. Voilà quoi, pour moi c'est pas un très bon joueur. Et... Bon, il a eu pas mal de blessures aussi, ce qui pourrait expliquer le fait que sa carrière ait été freinée comme ça, mais moi j'ai toujours un petit doute par rapport à son intégration.
Ok, très bien. Donc voilà pour le Genoa, passons à un autre match. Alors Sampdoria Udinese, si vous voulez bien, 3-1, donc je l'ai dit tout à l'heure, but notamment de Pazzini et Cassano, alors le fameux duo de la Sampdoria.
Pazzini.
Et, ouais, super
quel joueur. Quel joueur.
Pazzini, recruté.
Il a révolutionné. Il a révolutionné le jeu de la Samp. Hein.
Ah bah c'est surtout que la Samp ne peut compter que sur un exploit de ces deux-là maintenant à chaque fois qu'ils gagnent. Et ces deux-là font à chaque fois un exploit. Ils se trouvent les yeux fermés. Cassano fait une passe là sur le deuxième but, une talonnade. Je vous invite à la voir. Cassano reçoit le ballon un peu dos au but, au point de penalty, et il sent un joueur se glisser derrière lui, et puis il embarque la défense d'un espèce de petit râteau, et puis il fait une talonnade derrière. Manini se retrouve tout seul face au but. Enfin, c'est sublime ce que fait Cassano. En face, c'était Di Natale qui avait marqué pour l'Udinese. Donc la Sampdoria, voilà, qui cette année, on peut le dire, si on doit faire un petit bilan de ce club, ils vont avoir énormément de mal en défense parce qu'ils ont perdu leur super défenseur Marvolo, tu dois connaître, Campagnaro, que moi j'aime beaucoup. C'était un défenseur qui d'ailleurs les tifosi,
il est présélectionné en ce moment, donc
d'accord. Ben alors je sais pas si tu connaissais un petit peu le joueur, mais il a toujours été très très bon à la Samp, et donc là il est parti au Napoli cette saison, et la Sampdoria donc se retrouve avec une défense très très fébrile, et en revanche par contre une attaque de feu, une attaque qui n'est toujours pas sélectionné en équipe nationale par l'IPI. Enfin, si l'IPI avait sélectionné Pazzini contre, c'était la Bulgarie, il me semble, en mai dernier. Mais là, on a vu la liste, ni Pazzini ni Cassano dans la liste. Donc, c'est inquiétant quand tu sais que la Serie A, l'équipe d'Italie et l'équipe nationale d'Italie a toujours eu des grands numéros 10, que ça soit Baggio, que ça soit Del Piero. Ou Totti, parce que Del Piero a jamais été exceptionnel en équipe nationale, enfin surtout Totti. Donc ça fait vraiment vraiment peur pour l'équipe d'Italie qui se prive d'un de ses meilleurs joueurs sans aucun doute. Je suis assez déçu quoi. Un petit mot également sur un autre club là qui a remporté un premier titre cette saison, c'est la Lazio. La Lazio donc qui s'est imposée 2-1 ce soir face au Chievo Vérone, un nouveau but de Pellissier. On va finir par bien le connaître ce joueur, un bon petit joueur de Serie A qui avait mis un triplé contre la Juve l'année dernière. La Lazio donc avec un doublé de Cruz. Le joueur quoi qui fait qui est toujours là quoi, exactement comme à l'Inter quand il jouait, il avait toujours un petit but, et ben là la Lazio c'est pareil. Et je suis sûr qu'avec un bon petit joueur comme Zarate,
il faut pas être un génie pour savoir que si tu fais jouer les sept nains, bah ça va pas marcher devant hein.
Les sept nains.
tu fais jouer Tevez avec Agüero et Messi quoi. Tu touches aucune balle au-dessus d'1m60, tu peux pas t'en sortir.
Ouais.
Bon, il commence à prendre Jesus Datolo, le napolitain, ce qui est un bon petit joueur aussi.
Ancien Boca.
Ouais, ancien Boca. Et puis voilà, moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi il prend pas Zanate. Il donne aussi énormément de crédit à Lavezzi, alors que Lavezzi c'est un bon joueur, mais pour marquer des buts,
c'est irrégulier.
C'est pas sûr que tu peux compter. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de joueurs. Alors, moi, personnellement, quitte à prendre des attaquants, moi, je me sacrifierais bien Tevez, hein, parce que Tevez, il a suffisamment eu sa chance. Il a jamais été énorme. Higuaín et Zanate, ils devraient au moins être testés. Alors, Higuaín a déjà été testé, mais c'était pas un match officiel. C'était même pas un match amical, en fait. C'était un match en dehors des dates officielles, et ben, il est pas considéré comme un match officiel, mais ils avaient mis une branlée, je sais plus trop qui. Il avait marqué un doublé. Donc, voilà, quoi, je veux dire,
Vas-y Arnaud.
Oui, juste une petite réflexion. Alors, ça va peut-être paraître totalement con, mais Lavezzi, Denis, Napoli, ces gars-là sont sélectionnés.
Bah, je sais pas si c'est Datolo, non ?
Lavezzi, oui, et Datolo, ouais. Bah, les trois, puisque tu disais aussi que Denis était toujours sélectionné. Ces gars-là font partie du Napoli. Donc, on peut en tirer des conclusions par rapport au fait qu'il soit dans un club que Maradona aime plus.
Je pense pas que ce soit une Raymond Domenech, quoi. C'est plus, à mon avis, un truc tactique. Bah, tout simplement, ils jouent ensemble, donc ils ont peut-être plus d'automatisme, tout simplement. Oh. Mais après, le problème, c'est qu'ils jouent quasiment jamais ensemble, donc je vois pas trop l'intérêt. Bon, à la limite, Lavezzi, je pense que c'est pas une honte qu'il soit en équipe nationale, mais Raymond Denis, déjà beaucoup plus.
Ouais.
Et Bergessio, pareil, il a beaucoup sa chance. C'est un peu ça le problème. C'est ce que je reproche, c'est tu peux
perdre. Bergessio, oui. Celui que Saint-Étienne a acheté.
Ouais.
Il est sélectionné en équipe A d'Argentine.
Bah oui.
J'ai vu ça, il a l'air vraiment impressionnant. Je...
Bah pour une fois, ils ont fait une bonne recrue, donc on va s'en féliciter.
Ouais, bah ouais.
Mais bon, il y a moins de choses à dire après. Ouais, il jouait à San Lorenzo. Et bon, c'est pas trop mauvais, quoi.
Parce que franchement.
Et lui, c'est pareil, hein, il a des super stats. Mmh. Bah, il faut dire qu'il a marqué, sur son premier match, il a marqué un doublé contre, pas son premier match, mais un de ses premiers matchs contre Panama, il en a marqué deux. Donc, ouais. Voilà, c'est. Bon, il faut se poser des questions, quoi.
Non, parce que là, ça
c'est. Il a été sélectionné. Et pour Mauro Zárate, c'est pareil, on peut penser que. Et pas, pourquoi je dis Zárate, tu m'as collé Mauro Zárate et pas Zárate. Non, mais le pire, c'est que je suis rentré pareil que toi, je l'ai prononcé pareil que toi. Mais on peut penser aussi que son départ très tôt de Vélez Sarsfield pour aller jouer Al-Sadd, ça n'a pas été, ça lui a été très préjudiciable. Maradona, il a une certaine éthique, ce qui est marrant vu son passé d'ancien Mexico.
Effectivement.
Je pense que je pense qu'à un moment, si t'es un ancien obèse, toxico et alcoolique et que t'as fait des tentatives de suicide, tu te gardes bien de donner des leçons de vie et de savoir vivre aux gens. Alors moi, qu'ils me disent qu'il veut pas prendre Higuaín parce qu'il le sent pas assez argentin, ah bah c'est sûr que si pour être argentin, faut être une sorte de bœuf. Vraiment, c'est une sorte de bœuf engraissé, une sorte de bison de Kobe, tout en Boca Junior.
Oh, respecte-le un petit peu. Oh.
Non, excuse-moi.
Elle pivait de l'euro, un peu.
Excuse-moi.
Elle pivait de l'euro.
Excuse-moi, mais moi, au bout d'un moment, les footballeurs, je les respecte pour ce qu'ils sont, mais les hommes, c'est une salope.
Oui, si tu veux, oui, mais
salope, bon. Ce que tu veux. Donc à partir de là, j'ai absolument pas à respecter une sous-merde comme ça, parce que c'est une sous-merde dans sa vie. J'ai pas à le respecter. Franchement, je ne respecterai pas un
mec pareil.
Non, mais je veux dire que si je me permets de dire que Zidane est une salope, je vais pas dire que ah non, mais Maradona c'est bien, tout ça c'est l'Argentin. Non. C'est une merde et il donne des leçons de savoir-vivre. Il nous prive de deux de nos ouais. plus grands espoirs.
Tout ouais, ça c'est vrai.
Pour prendre des saloperies qui jouent en Argentine. Arrêtez quoi, Bergessio. Non mais vous rendez même pas compte que il prend Salvatore Papa.
Et Papa aussi. J'ai failli le dire.
En plus, on peut même pas me critiquer là-dessus parce que c'est même pas quelque chose de gratuit vu que Salvatore Papa joue avec les Sarsfield, donc c'est. C'est un joueur de mon club, si tu veux. Je vais pas être. Tu vois, je vais pas le taper juste pour le taper, mais bon. C'est léger. Moi, j'aimerais qu'il commence à recruter vraiment les meilleurs joueurs et qu'il arrête de nous faire ça, qu'il nous donne des leçons de morale, quoi.
Et toi, tu vois bien le. Qu'est-ce que ça, toi
est-ce que tu crois hein. Pas simple, Salvatore, papa.
C'est non, mais est-ce que tu crois que Zarate et Messi, par exemple, ça ferait vraiment, ça donnerait plus de vitesse aux joueurs.
Alors, moi, je pense que oui, franchement. Zarate.
Je t'ai eu, Marvolo.
Il joue côté gauche à la Lazio.
Ouais.
Ouais, voilà. Et Messi, tu le mets à droite.
Je pense que voilà. C'est suffisant, quoi. Et puis, par exemple, tu mets Agüero dans l'axe, ou Diego.
Voilà. Voilà.
C'est déjà plus crédible, quoi. Surtout que voilà. S'il fait tout ça pour aménager de la place à Jonas Gutiérrez, bon voilà. Voilà. Jonas Gutiérrez, il est tellement bon qu'il a pas réussi à maintenir Newcastle en première division. Donc,
Lui et Gutiérrez, c'est un peu le pépé, italien. Ouais. Justement, quand on parle d'Argentine, juste pour finir, tu peux me dire un petit mot sur Palacio? On parlait de Boca tout à l'heure. Est-ce que lui aussi, il a été recruté par le Genoa? Et on m'a dit énormément de bien, alors comme je connais pas très bien le championnat argentin.
Ben, il y a 3-4 ans, ça aurait été une excellente recrue. Maintenant, c'est grave. Plutôt une bonne recrue. Il a quand même 27 ans. Comme je l'ai dit, c'est pas l'homme au Rasta, c'est l'homme à la Rasta. Il y en a une.
Il y en a une.
Non, mais voilà, ça reste quand même un bon joueur. Hein, faut pas.
C'est une valeur sûre. Une valeur sûre du.
Et la Copa Libertadores l'an passé. Il a gagné l'Apertura aussi, donc
Il a été longtemps. Non, mais il a été longtemps pisté par le Barça pour venir.
Il me semble qu'il a eu de très pendant longtemps plutôt. Il a eu des. Je sais pas si c'est par rapport à des problèmes de papier pour son passeport espagnol ou tout simplement parce qu'il voulait pas partir. Mais on n'a jamais senti une énorme volonté de sa part de quitter Boca Juniors. Donc après, bon, vous savez comment ça marche à Boca Juniors, on n'est pas pressé de quitter le club parce qu'il y a une perte que tu trouveras nulle part ailleurs.
C'est clair. En parlant de Boca Juniors, Riquelme, il y a plusieurs clubs européens qui voudraient le reprendre cette saison. Il a pas trop envie de bouger, quoi.
En même temps, c'est un demi-dieu là-bas, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Riquelme, quand il dit de la merde, on va lui torcher le cul là-bas, si tu veux.
Ouais, mais c'est un peu comme Totti en Italie, tu vois. Totti dit toujours de la merde dans ses interviews, mais ça l'empêche.
C'est le brave débile, quoi. Hein.
Totti, c'est vraiment le gitan.
Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est vraiment le brave débile.
Ouais.
Mais bon. C'est vrai que. Il y a des
choses. Palacio, c'est une bonne
recrue. Évidemment que c'est un bon joueur. Et puis voilà. Bon, il y a Carlito Brigante qui nous dit qu'Avenaghi en sélection, donc écoute, t'es gentil. T'es gentil, maintenant tu repars à l'année.
il entend pas l'appel du lit là normalement là quand il sort des postes comme
non,
ça.
Non, mais Kavenaghi c'est pareil, c'est un bon joueur. Il a eu un petit peu sa chance en sélection.
Ah, il a déjà été sélectionné.
Bien sûr.
Il a été sélectionné, bien sûr.
Quand il était à River Plate.
D'accord.
Mais même quand il était à Bordeaux, il a été sélectionné récemment. Donc le truc c'est que bon, lui c'est pareil, hein, il va faire 26 ans cette année, c'est encore jeune. Mais quand tu as un mec comme Salaté qui, fois je suis pas tombé dans ton piège de crevard, Salaté qui est en train d'exploser dans le championnat le plus dur au monde. Ouais. Ben voilà, je pense qu'il mérite plus de crédit quoi.
Ouais,
c'est vrai.
En raison, Mara. Très bien. Donc on a parlé donc de la Lazio. On pourrait parler maintenant de la Fiorentina. Donc on voulait parler de Jovetic tout à l'heure avec Khaled. Donc la Fiorentina qui s'est imposée dans la douleur face au Palermo ce soir. Un terrain catastrophique parce qu'à Florence il fait très très chaud. C'est du 35-36 degrés chaque jour à Florence. Donc le terrain c'est presque une plage, c'est Copacabana. Et non mais si c'est vrai.
À ce moment-là.
C'était du beat shocker aujourd'hui. Ah oui, le ballon ralentissait, c'était hallucinant. Hein. Si vous avez l'occasion de revoir les images, c'est tous les terrains sont grillés, ils ont de réels problèmes la Fiorentina. D'ailleurs, ils savaient pas s'ils seraient obligés de changer de stade au début du championnat pour ne pas jouer leur premier match. Pour l'instant, ça tient, mais je ne sais pas ce que va décider la Lega après ce match-là. Bref, ça a pas été un super match, faut le reconnaître. La Fiorentina s'est imposée dans la douleur. Jovetic en sauveur, encore une fois, le petit Jovetic. Il y a que lui qui est en train de sortir du lot pour l'instant.
Je pense que Moutou aussi, ça peut être pour ça. Hein.
Voilà, ouais. Parce que
je suis pas sûr qu'il pense vraiment au foot en ce moment.
Je sais, il a une amende à payer de 17 millions. Et sinon, il va. Bah ouais, 17 millions. Je sais pas où est-ce qu'il va les trouver, mais bon, bref.
Bah, les journaux italiens estimaient sa fortune pour l'instant à 12 millions. Sa fortune personnelle, bon. C'est des estimations en plus.
12 millions, sa fortune personnelle, ça veut dire que il doit vendre tout ce qu'il a et il doit vendre 5 millions, tu vois.
Exactement.
Alors,
non, c'est ça.
De kermesse ou de moutouton, il est dans la merde.
Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, quand il n'y a pas Moutou dans cette Fiorentina, Gilardino ne peut rien faire. Il n'est pas suppléé. Donc, effectivement, il faut attendre un exploit. Et l'exploit vient en ce moment du petit Jovetic, qui est exceptionnel. Il a marqué contre le Sporting Lisbonne. Ouais. T'as vu ce but qu'il a mis, il est magnifique.
Ah, hein. Ouais, j'ai vu le but et c'est un but ultra important pour la Fiorentina, aussi bien sportivement que aussi économiquement, comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai que c'est un très très bon petit joueur et qui a un très bon avenir en Serie A, à mon avis.
Hein. Et je crois que ça va être son année aujourd'hui, aujourd'hui pour cette saison, c'est l'année où il doit confirmer, quoi.
Voilà. Ah bah surtout que là, ouais, il a parce que Marchionni c'est pas ça pour moi, donc il aura toujours une petite place sur le côté droit. Parce que même si Moutou revient, il y a quand même un espace dans ces, puisque la Fiorentina joue toujours avec un attaquant et trois joueurs derrière. Il y aura toujours une place pour Jovetic, et vu qu'il est en train de prendre le cœur des supporters, à mon avis, prendre des livres, avoir énormément de mal de le retirer de sa composition. Et là, et c'est vrai que ça pourrait vraiment être son année. C'est bien d'ailleurs. Ouais. Donc pour une fois, je souligne, Prandelli a réussi à se séparer de Montolivo, qui est vraiment, alors que c'était un super milieu de terrain il y a deux saisons.
Ouais.
Figure-toi que depuis 6 mois, il est vraiment, vraiment, vraiment pas très bon. Et c'est un des premiers matchs où Montolivo vient s'asseoir sur le banc, c'est pour dire. Prandelli qui lui faisait en totale confiance, il a préféré mettre Donadel, l'ancien Milanais, et Zanetti, l'ancien de la Juve, arrivé donc à ce mercato. On en parlait tout à l'heure avec Marvolo. Donc, effectivement, on est dans une phase assez compliquée pour la Fiorentina qui peut s'en remettre qu'à des joueurs comme Jovetic sur des coups d'éclat quoi. Un mot sur Palerme, leur adversaire d'un soir, Palerme qui a bien recruté cette saison, ils ont recruté malin comme souvent. Le jeune alors je sais pas comment on dit Pastore,
Javier Pastore.
La Javier Pastore, qui est vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est un joueur très agréable à regarder, il est plein de détermination, Et les deux matchs que j'ai vus du Palermo, c'est vraiment un joueur qui leur fait du bien, parce qu'il leur manquait un numéro 10 à Palerme pour jouer derrière Micoli Cavani, le duo, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, bah Micoli sûrement, Cavani peut-être un peu moins.
C'est un international.
Bon joueur d'ailleurs, ce petit Cavani. Et il leur manquait un meneur de jeu et ils l'ont enfin trouvé. Ils ont Bertolo sur le côté qui est un qui commence à faire de bons débuts également. Il jouait à Boca, c'est ça?
Datolo.
Non, Bertolo.
Bertolo.
Bah il jouait peut-être pas à Boca, excuse-moi.
Datolo, il joue au Napoli, il joue pas à Palerme.
Voilà. Mais non, mais oui, voilà. Mais je parle bien de Bertolo à Palerme. Il a été recruté. Comment?
Il vient d'où, Arnaud?
Bah justement, je vais essayer de retrouver, je vais vous le retrouver, mais il me semblait qu'il venait d'Argentine. Non, bah je me trompe sûrement.
Mais c'est qui? C'est quel Bertolo? Parce que moi, si tu me dis Bertolo comme ça, j'ai aucune idée. Il vient de Banfield.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais il a joué à Boca, hein, aussi.
Oui, voilà. C'est ça, parce que moi, la photo que j'avais quand il est arrivé, c'était une photo où on le voyait embrasser le maillot de Boca, c'est pour ça.
Il a joué, mais il a pas vraiment brillé, puis ensuite c'est plutôt à Benfield qu'il a été bon.
D'accord, exact, voilà, c'est ça. Et il est pas mal, hein, je l'ai un peu vu jouer. Donc Palerme qui a échoué depuis deux saisons donc au pied de l'Europa League, enfin Coupe UEFA, on appelait ça avant. Et Palerme qui aimerait bien viser, ils ont changé d'entraîneur, ils ont plus Ballardini en entraîneur, ils ont Zenga. Alors Zenga qui était pourtant l'ennemi juré puisque c'était le coach de Catania la saison dernière, qui est venu là, qui a pourtant reçu un accueil très chaleureux de la part des tifosi rosanero, qui ont apparemment oublié qu'il était chez l'ennemi l'année précédente. Bref, le Palermo aurait aussi les moyens de faire quelque chose cette année. Ils ont une belle petite équipe. C'est pour ça que je dis que la Serie A est assez relevée cette année pour les entre la 7e et la 3e place, parce qu'il y a vraiment des équipes qui peuvent qui pourront accrocher quelque chose. Là, on va passer maintenant au Napoli. Napoli qui a gagné 3-1 face au Livorno aujourd'hui. Livorno qui vient de perdre Diamanti, Alessandro Diamanti pour ceux qui connaissent, qui est parti à West Ham. Un super petit joueur, Diamanti. Et voilà, le Napoli, 2 buts de Quagliarella pour ses 2 premiers buts en Serie A sous le maillot napolitain, et un but de Hamzik qui confirme son très très bon début de saison. Hamzik,
on le présente plus lui, hein.
Évidemment on le présente très, plus comme
très,
tu le dis,
très très bon joueur qui a failli aller à l'Inter de Milan, que Mourinho voulait absolument pour son équipe.
C'était ça le meneur de jeu qu'il aurait bien aimé, quoi. C'était ça. Exactement. Il a eu Schneider, c'est du tout bon aussi, mais en tout cas effectivement le Napoli a quand même un effectif qui fait un peu rêver ceux qui connaissent bien la Serie A. Ils reconnaîtront quand même que t'as des joueurs assez bons. Donc je parlais de Campagnaro tout à l'heure en défense. Il y a Zuniga qui jouait à l'Udinese et qui est un super joueur, le Colombien Marvolo. Je sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais, c'est un latéral droit qui la Juve aussi l'a beaucoup pisté, puis finalement il est parti chez eux.
Ouais, et c'est un super joueur, hein. Il avait fait une très bonne saison. Il était d'ailleurs dans les meilleurs défenseurs de Serie A l'année passée arrière droit avec Bocchetti, le petit du Genoa. Ils ont recruté De Sanctis derrière, là l'Italien.
Très bon gardien.
Ouais, bah oui, justement. Ouais.
J'aime beaucoup ce gardien De Sanctis.
Ils avaient en plus un petit problème de gardien, parce qu'ils avaient Iezzo. Il était argentin, c'est ça, Marvolo?
Qui ça?
Iezzo.
Iezzo, non, je crois pas.
Ah, il était pas argentin?
Tu parles du gardien du Napoli, non?
Ouais,
oui. Non, il est pas argentin, il me semble pas.
Ah, ok, non. J'étais persuadé, c'est pour ça.
C'était surprenant, franchement.
Non, t'as raison, c'est ça. Je viens de vérifier, effectivement, il est italien, pardon, autant pour moi. Et ils avaient un problème parce que c'était pas un super super gardien, et là ils ont
une valeur sûre, ils ont pris une valeur sûre.
Donc ils ont toujours le petit frère de Fabio Cannavaro, Paolo. Ouais. C'est pas non plus le calibre de son frère, mais ça reste un bon défenseur de Serie A. Des fois il fait un petit peu des conneries, mais ça reste un bon capitaine quand même. On est sur une bonne assise défensive au milieu de terrain. Donc il y a Hamzik, vous avez un gars comme Gargano qui est un super
joueur. Gargano, oui.
Très très bon
joueur. National Uruguay, hein, lui aussi.
Ouais. très bon joueur. Il fait penser beaucoup à Philippe Melo un peu. Sa gestuelle un peu.
Moins imposant sur le terrain, parce qu'il est beaucoup plus petit.
Ouais.
Parce que Felipe Melo est très grand. Il faudrait d'ailleurs que je regarde sa taille à Felipe Melo, mais ça m'impressionne à chaque fois que je le vois sur le terrain. Il paraît vraiment très... Enfin,
il est si grand que ça.
Ouais. Donc ils ont recruté Tsigaleni aussi, qui est un super joueur. Il jouait à Bergame l'an passé.
Ouais, il avait explosé en fait quand il était à part, mais qu'on considérait comme le bon Pirlo.
Exactement.
Ah oui, Tsigaleni, oui.
Mmh. Ouais. Il joue en équipe espoir italienne et c'est vraiment un très très bon joueur. Là, Napoli a fait une super recrue là, avec lui, parce que c'est un joueur qui est à la fois bon dans un poste à côté d'un Gargano par exemple, et c'est aussi un mec qui pourra jouer derrière Lavezzi en attaque. C'est vraiment très très polyvalent et très intéressant. En plus, on a disait que c'est un bon petit joueur quand même, qui reste à confirmer, mais c'est un bon petit joueur. Maggio, pour ceux qui connaissent un peu la Serie A, c'est un
super à l'air droit, moi j'aime beaucoup.
Exactement. C'est un gars qui peut énormément déborder, et dans le système assez spécial du Napoli, le 3-5-2 là, avec des latéraux, et ben c'est très pratique un joueur comme ça.
C'était un gros transfert. Hein. Il a été payé très très cher. Hein. Naples l'a payé cher. Hein.
Il a été payé. C'était l'an passé.
18 millions, hein, 11 millions, un peu plus, très bien. Mais c'était énorme. Hein.
Parce qu'il y a eu une histoire l'année dernière avec son club avant, parce que Maggio avait eu il avait pas eu d'autorisation de sortie en fait quand il était à la Samp, et il y a eu un gros micmac, une grosse histoire avec la Samp lors de son transfert, et finalement Manini lui est reparti du côté de la Samp cette saison là, lui qui était latéral gauche l'année dernière au Napoli, et on n'a jamais eu vraiment les chiffres, mais oui, c'est un gros transfert quoi.
Mais là j'ai l'équipe de Napoli, le 11 de départ, c'est assez pas mal hein.
Oui, c'est pour ça que je dis que ça, si la mayonnaise prend, alors des coups d'éclat quoi, parce que je sais pas si vous avez su, mais la présentation de l'équipe s'est faite dans le yacht, un yacht de 150 ou 200 mètres, je sais plus, du président de Naples, qui est un producteur de cinéma, Monsieur Aurelio De Laurentiis, pardon. Et cette présentation des joueurs, ça a pas trop plu aux supporters. Le mec qui fait ça, il est un peu à part, quoi. Il se met à part avec son équipe sur son yacht. Ça faisait un peu présentation américaine. Les joueurs sont arrivés en hélicoptère sur le yacht, bref. Et on avait peur que ça soit un petit peu trop des paillettes, quoi. Tout ça, un beau recrutement avec Quagliarella devant. On a gardé Lavezzi, alors que Lavezzi a failli aller à Liverpool. On n'a jamais su ce qui s'était passé. On a eu peur pour le Napoli les deux premières semaines là précédant le championnat. Il y avait vraiment une rumeur comme quoi Donadoni arriverait jamais à gérer tout ça. Mais là, ce soir, il a battu une faible équipe de Livourne. Il faut le dire quand même, qui va se battre pour le maintien toute cette année. Mais je pense que peut-être que Donadoni pourrait avoir le caractère finalement pour arriver à gérer tous les égos de tout le monde, même si c'est pas l'entraîneur le mieux adapté à mon avis. Dans cette histoire pour le Napoli, je pense que Edi Reya qu'ils avaient avant a été viré peut-être un petit peu vite et malheureusement Donadoni, ça, je suis pas fan, donc je pourrais pas trop m'étaler dessus. Un petit mot pour finir cette page italienne, de la surprise. Moi je pense que ça pourrait être une des surprises cette année. C'est un promu qui vient de remonter, c'est Parme avec des jeunes joueurs, des joueurs comme Biabiani, pour ceux qui connaissent, c'est un petit français qui est passé par le centre de formation de l'Inter, des joueurs comme le petit Paloschi évidemment, que vous connaissez, qui avait marqué un but au bout de 40 secondes de jeu lors de son entrée face à Sienne, un joli but lors de sa première entrée, lors de son premier match en Serie A, c'était il y a deux saisons, c'était en mai 2008, enfin il y a deux saisons, pas la saison dernière, l'autre quoi, C'était en mai 2008. Ben non, pardon. Si, c'était la saison dernière, mai 2008. Oui, ça doit être ça, ou avril 2008, je sais plus. Et il avait fait, ouais, c'était contre Sienne, je me rappelle. Enfin bon, c'était un, c'est un super joueur. Et mais non, qu'est-ce que je raconte là en fait ? Excusez-moi. C'est en mai 2007, pardon, qu'il a fait, qu'on a, enfin, ce but dont on, beaucoup de monde a vu ce but-là, pardon. Et il est allé à Parme, voilà, la saison passée. Il a inscrit plus d'une dizaine de buts en série B avec Parme, et il a grandement contribué à leur remontée. Ce qui fait qu'il a été longtemps dans la balance entre soit revenir à Milan, ce qu'il était prêté par à Milan donc, soit rester à Parme. Le président Ghirardi de Parme a tenu absolument à le conserver. Il est resté. Là, il est sous forme de copropriété. Donc copropriété, c'est la grosse merde pour le Milan, parce que si le gamin qui en est déjà à deux buts cette saison, il en a mis un au match la semaine dernière face à l'Udinese où Parme a fait deux buts partout. Là, il remarque encore ce soir. Parme gagne 2-1 à domicile contre Catane. Et le gamin, s'il marque encore 15 à 20 buts cette saison, il va coûter 10-15 millions. Et ouais. Sa copropriété qui a été payée 1,5 million, je crois, cet été, va en valoir 15. Donc ça aura 7,5 chacun si Milan veut ramener le joueur à la maison. Ça, il faudra débourser 7,5. Donc peut-être une erreur de la part de Milan, mais bon, quand on voit Jack qui
a... On est habitué maintenant.
Ouais, oui, les erreurs du côté du Milan, c'est sûr, ouais, qu'on est habitué. En même temps, on pouvait peut-être pas faire grand chose quand tu voyais qu'il y avait Pippo Inzaghi, quand tu voyais qu'il y avait Huntelaar qui allait arriver.
Ouais.
Quand tu voyais que t'as quand même Pato qui est considéré comme un attaquant de pointe, tu as aussi Borriello, donc c'était difficile quand même de faire revenir le petit Paloski à la maison. Mmh. Un autre mot aussi sur ils ont recruté par exemple
Zaccardo qui est revenu aussi.
Ouais, exactement, Zaccardo, c'est cette semaine quoi qui est revenu, ouais, de Wolfsburg. Alors c'est bien parce que c'est un joueur qui avait brillé avec Palerme.
Ouais.
Qui a jamais réussi apparemment à s'imposer à Wolfsburg. Ça a été un peu un flop par rapport à Barzagli qui lui a réussi.
Capitaine en plus maintenant à Wolfsburg.
Ouais, il me semble, ouais, effectivement.
Capitaine, je l'ai vu capitaine contre le Bayern.
D'accord. Et lui, Zaccardo a pas réussi, donc c'est bien qu'il revienne en Italie, ça pourra lui faire que du bien. Ouais. Et ça peut être une bonne recrue avec de l'expérience pour Parme, qui ont, exactement, en parlant d'expérience, sur les côtés, ils ont Panucci, ils ont réussi
qui est revenu.
À récupérer Panucci. Alors évidemment, c'est plus le Panucci des années Milan, des années 95 et 2000, mais c'est un Panucci quand même affûté comme l'année dernière. C'est un Panucci qui va te marquer 3 ou 4 buts par saison, des buts super importants sur phase coup de pied arrêté. Ah, c'est Panucci, ouais, qui aura le brassard et qui saura remonter tes coéquipiers. C'est lui qui va tenir à bout de bras l'année dernière par moment la défense de la Roma, parce que Mexès par moment faisait n'importe quoi, parce que Juan se dispersait un peu trop. Et Panucci, je trouve que c'est une super recrue pour Parme, et ils ont fait un recrutement très intelligent. Ils ont aussi recruté au milieu de terrain Galoppa, c'est un joueur pas très connu de Serie A, mais très très sous-estimé malheureusement. C'est comment?
Formé à la Roma.
Exactement, voilà. Daniele Galoppa, et qui a été sous-estimé. Il est passé de petit club, il était l'année dernière à Siena, et on voyait qu'il survolait quoi les matchs, et c'était dommage de le voir dans un club comme ça. Alors là, c'est pas non plus un club de gros standing, mais Galoppa va pouvoir peut-être moins jouer dans l'anonymat, parce que Parma est quand même plus suivi que Sienne, c'est un des clubs les moins suivis de Serie A, Sienne, donc c'est bien pour Galoppa qui mérite encore un échelon au-dessus, parce que c'est vraiment un super joueur. Effectivement, il a été formé à la Roma, et c'est un joueur un peu sous-estimé. Je trouve que on a des joueurs comme ça un petit peu partout en Serie A qui mériteraient une équipe un petit peu meilleure, voilà. Donc je voulais juste dire un petit mot sur Parme, qui me faisait plaisir, et donc qui pointe là pour l'instant à la 6e place avec 4 points, et ça pourrait vraiment être la surprise cette année de Serie A, avec effectivement l'arrivée de Bojinov aussi, qui a été
Amoruso aussi.
Ouais, Amoruso est venu. Il y a Guidolin qui est un bon entraîneur, hein. On l'a souvent critiqué en France parce qu'on l'a connu sur son passage à Monaco. Alors à l'époque, c'était des joueurs qui n'avaient aucune envie de bosser, C'était des joueurs, c'était affreux d'avoir un groupe comme ça. Il en avait pas fait très grand chose. Surtout que c'est un
Guidolin en Italie, il est plutôt bon. Il a des bons résultats généralement.
Et puis ce qui lui a nui, oui, il a des bons résultats, mais ce qui lui a nui, c'est un entraîneur assez atypique parce que il a Palermo assez hallucinante parce que il est resté un moment deux matchs avec Palerme avant de se faire remplacer par l'entraîneur que lui-même a remplacé à la fin de saison. Il y a eu une histoire où il a entraîné en fait quatre fois différemment le Palermo avec des coupures. Des fois il a entraîné le Palermo pour un été ou une fois pour deux matchs en fin de saison. Une fois il les a entraînés pendant six mois. Enfin bon bref.
C'est vrai.
C'est un entraîneur assez atypique et qui est assez strict avec ses joueurs, donc il demande vraiment beaucoup, mais c'est un bon entraîneur quand même. Et là on voit ses résultats avec Parme, c'est vraiment très satisfaisant. Il a réussi à les faire remonter directement l'année suivant leur descente, et je trouve que ça c'est bien quoi. Je suis satisfait de son boulot à Parme, voilà. Donc en fait, si vous voulez un petit mot de Catane, il y a pas vraiment à dire. Ils ont pas recruté, ils ont gardé juste leurs deux joueurs qui tenaient absolument à garder, c'est Morimoto là, le japonais, et Mascara donc devant là. C'est une équipe qui va encore se battre comme chaque année pour ne pas descendre. Ils peuvent pas viser grand chose d'autre, Catania, hein, en même temps, c'est normal. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est ce type d'équipe comme Sienne qui sont. Enfin, à Catania, vous allez me dire, il y a une ferveur populaire qu'il n'y a pas du tout à Sienne, hein, mais c'est vrai que ça va jouer pour le maintien, quoi. Moi, si je dois mettre des pièces sur le maintien, faudrait-je mettre Bologne comme chaque année. Je mettrais peut-être Sienne, Livourne et Catania. Ça va jouer entre ces quatre-là parce que. Le Chievo-Vérone, par exemple, Marvolo, t'avais vu, ils avaient fait une pas mauvaise prestation contre la Juve à la première journée.
La Juve était cramée, la Juve jouait sans 5-6 titulaires, donc c'est pas forcément...
Oui, on peut pas trop se fier au match, mais... Je les avais trouvés... Enfin, oui, j'avais pas trouvé encore une équipe trop... Je me disais que s'ils jouaient comme ça, ils pourraient arriver à se maintenir assez facilement. Enfin, bref, je vois pas, voilà, donc une équipe... une équipe du Chievo aller à la bataille au maintien. Donc je vois dans ces trois là Bari, je pense qu'à mon avis ils vont arriver à se sauver parce que ils ont un public et ils ont un fond de jeu qui leur reste de série B qui est vraiment assez intéressant. Donc je vois pas non plus Bari se retrouver à lutter pour les dernières places. Donc voilà. Oui, pour finir ce très long débafteur qu'on aura fait, c'est un petit mot sur l'Udinese qui a réussi comme chaque année à faire en fait un bon recrutement, mais eux ils font leur bon recrutement dans le fait qu'ils ne perdent pas de joueurs. Vous avez Di Natale qui reste, vous avez Floro Flores qui reste. Le seul joueur qui est parti, c'est Quagliarella. Donc D'Agostino qui a été énormément attendu à la Juve reste finalement. Et Felipe Melo est arrivé. Donc je trouve que Inler reste. Pepe, même si je suis pas fan, reste quand même. Ils ont recruté Samarco de la Sampdoria, qui est un bon petit joueur au milieu de terrain. Ils ont Alexis Sanchez, que Marvolo aime beaucoup, et que moi aussi, effectivement, c'est un très bon petit joueur. Ils ont Bernardo
Sanchez. Alexis Sanchez, Fred, franchement, s'il y a un mec qui l'a déjà vu jouer, qui dit pas que c'est un bon joueur, alors vraiment qu'il aille se pendre, hein. c'est quand je vois tout le bordel qui est autour de Ben Arfa, putain, lui, c'est un Ben Arfa puissance 10. Il est déjà 10 fois plus fort que lui, et il semble avoir 10 fois plus de potentiel que lui, donc,
En tout cas, il fait la même taille que lui, hein. Je crois qu'il fait il fait même pas 1m70, je crois, Alexis Sanchez. C'est un peu plus haut.
Benzema. Mais enfin, il est grand taille. Il fait 1m80, 1m78. C'est pas un petit, hein.
Ah oui, en plus, je savais pas qu'il faisait autant, Ben Arfa. D'accord. Ouais, donc ils ont réussi à avoir Corradi aussi, qui est un ancien de la Serie A, mais un ancien de la Serie A qui connaît bien. Il a fait plusieurs clubs, il a joué aussi à l'étranger, il a joué à Manchester City une saison, et ils ont réussi. Donc c'est un attaquant sur lequel ils peuvent compter. Ils ont des bons petits joueurs, je pense, l'Udinese, pour essayer de venir embêter. Alors, je les mettrai pas dans les 7, mais ils peuvent venir essayer de jouer une compétition comme la Coppa Italia ou quelque chose comme ça cette année, parce que ils ont conservé une base. Et puis c'est ça l'avantage de l'Udinese, c'est qu'ils vont chercher des joueurs un peu partout. Inler, ils vont savoir aller le chercher en Suisse, et c'est un super milieu de terrain. Ils vont savoir aller chercher, on parle de Alexis Sanchez. Là, ils sont encore allés faire 2-3 coups en Amérique du Sud, des joueurs pas connus du tout. Alors on va attendre ce que ça donne, mais souvent ça déçoit peu avec l'Udinese, qui ont une très très bonne de cellule au recrutement et des recruteurs qui vont un peu partout, et ils nous impressionnent toujours parce qu'ils arrivent à trouver des petits joueurs. La preuve, Alexis Sanchez, il est péruvien ou il est, attends, il est quoi, Alexis?
Il est chilien.
Il est chilien, voilà. Allez, il est chilien, effectivement. Donc, vous voyez, ils vont aller chercher un peu partout leurs joueurs.
Bah, l'utiliser, outre Alexis Sanchez, ils ont aussi Fabian Orellana. Donc, je sais pas s'il joue beaucoup.
Mais... Alors, non, pas du tout. J'en ai même jamais entendu parler, alors, tu vois.
Bah, ils l'ont acheté en janvier, puis il est connu pour avoir marqué un but contre l'Argentine en qualif. Alors, je sais pas après ce qu'il est devenu, s'il joue toujours.
Alors là, je pourrais. Pas du tout
dire. Je te confirme, il est toujours à l'Udinese. Bon, il est arrivé il y a quelques temps, donc forcément. Ah non, il est prêté à Xeres, donc à mon avis, c'est moi qui devrais te briefer là-dessus dans quelques temps.
Ah, merci Marvolo. J'adore quand tu me briefes.
c'est lui aussi, c'est un gamin, il a 22, 23 ans. Et puis, il a marqué un but, comme il a marqué contre l'Argentine, forcément. Voilà, c'est parce que c'est le but qui gagne l'Argentine en plus, c'est le but de la victoire, quoi.
D'accord, oui, effectivement, là, ça change. je pense que ce petit guide et cette petite tournée de Serie A est finie, on en aura bien parlé, j'espère que ça ne vous aura pas paru trop long. En tout cas, moi je me suis bien amusé.
Bah non, pas du tout.
Toi, si t'as pas envie de sortir de la conversation en 2-2, tu vas t'arriver à te calmer.
Encore un très grand tour.
Les survivants. Une petite stat de la part de Leek qui nous transmet sur le forum que apparemment il a entendu dans une émission sur Canal Plus que ça ferait depuis 1974 que Milan que l'Inter n'avait pas gagné par un aussi gros écart face au Milan.
Voilà, très longtemps quoi.
Ouais, donc effectivement t'avais raison Raled de dire que ça faisait effectivement ça fait bien maintenant 30 ans, plus de 30 ans. Et pour rappel, Marvolo a trouvé le match Real.
Donc,
Arnaud est...
ce qu'il voulait dire, c'était...
Arnaud est décédé.
J'ai posté la vidéo du résumé du match entre Real Saragossa et
Real Madrid.
Donc, le but d'Everton dont on parlait, c'est le sixième. Et puis, c'est le match où Diego Milito marque un formidable quadruplé. Ou comme dit Khaled, un quatre-tuplé.
Un quatre-tuplé.
Attendez-vous, messieurs.
Ouais, maintenant, bon. Oui, nous t'entendons.
Très bien, bon, c'est surtout pour vous remercier pour cette très belle émission. Sachez que ça m'a fait grandement de plaisir de parler tout ça avec vous. Pour rappel, ce soir, il y avait Yann, Roméo, il y avait Dan aux manettes, il y avait Marc Volo,
Mazel Tov,
et Khaled.
Ouais.
Et je vous dis tous à demain pour une émission à 21h, une émission spéciale Ligue 1. Il y aura du monde, il y aura Roméo, il y aura, enfin
toi,
je vais pas dire Roméo parce que ça va faire fuir du monde, mais bref, vais vous rendre l'antenne. Il est 2h14 du matin, Génération Soccer.
Et tout de suite retrouver Yann.
Tu vas fermer tout de suite d'abord parce que je dois faire ma pub et dire que pour toute information sur la Serie A, n'hésitez pas à passer sur www.calciomilio.fr. Et sinon, évidemment, Yann va nous faire une petite playlist rap juste après que vous pourrez apprécier. À très bientôt. Ciao tutti.
Ciao.
Yo.
Yo.
Yo.